Salut à tous et bienvenue dans le 9e épisode de la saison 3 de Vue du Banc à l'occasion de la trêve internationale. On va s'arrêter sur ce qui s'est passé dans les 5 principaux championnats européens. Et pour cela, évidemment, je suis avec l'équipe type Raphaël Cosmidis. Salut Raphaël.
Salut Florent.
Et Christophe Kuchli.
Bonjour.
Bonjour. Très, très énergique. Bref, je suis Florent Tonuti, on va démarrer tout de suite avec la Ligue 1. Alors, on va pas parler du PSG parce qu'on en a déjà quand même pas mal parlé, notamment dans le dernier épisode que vous pouvez toujours écouter après leur victoire face au Bayern Munich. On va pas non plus parler de Monaco qu'on a aussi déjà évoqué. On va plus s'intéresser, Raphaël, pour commencer au retour de l'OM qui, mine de rien, eh ben, ressort de cette phase de ce mois de septembre. Avec la troisième place, un OM qui a un petit peu changé de projet, mais qui a des résultats pour l'instant. Alors des résultats face à Konyaspor, face à Amiens, face à Toulouse, qui sont des équipes quand même assez faibles, mais surtout un résultat face à Nice. Ouais,
ouais, une équipe qui a, tu l'as dit, qui a changé de projet. On est passé du 4-3-3 avec Sanson et Lopez relayeur à un 4-2-3-1 avec Gustavo et Zambo Anguissa associés au milieu de terrain. Alors on peut le regretter quand on aime des joueurs qui ont la qualité technique de Lopez et de Sanson, mais il faut reconnaître que ça a donné à l'OM un meilleur équilibre, notamment en possession du ballon où les espaces sont finalement mieux occupés et puis il y a cette sécurité derrière avec les deux centraux et les deux milieux axiaux qui n'avancent pas beaucoup. Donc ça te permet de garder une sécurité à la transition, à la perte du ballon, de moins être en difficulté. Ça avait été un grave problème contre Rennes il y a quelques semaines, là, quand ils avaient joué au Vélodrome et ils avaient pris les vagues de Rennes en contre-attaque. Alors c'est un football qui est pas forcément déplaisant, mais c'est un jeu plutôt stéréotypé où on va vite trouver les côtés et les latéraux pour attaquer sur les ailes avec des joueurs comme Thauvin, avec des joueurs comme Ocampos qui lui aime bien se recentrer aussi un peu. Mais ce que j'aime bien dans cette nouvelle OM, c'est qu'il y a des joueurs comme NG et Ocampos justement qui amènent beaucoup de présence dans la surface et qui arrivent à se créer des situations compliquées mais dans lesquelles ils sont doués. NG par exemple, quelqu'un qui va être très très bon dans des courses lancées à 1 contre 2, il va réussir à trouver un espace et à frapper. Pareil pour Ocampos qui va toujours être là sur les seconds ballons auprès de la surface adverse pour finir les actions que l'OM n'arrive pas à finir en premier temps. Donc il y a des points positifs dans ce nouvel OM, puis surtout il y a des points qui tombent dans l'escarcelle et ça permet à l'OM de remonter. Mais c'est vrai que c'est très très loin du projet qu'on avait imaginé, notamment à l'arrivée de Garcia, où on se disait que ça allait être un 4-3-3 un peu comme à Lille avec beaucoup de joueurs de ballon, avec la priorité donnée justement à ces milieux capables de construire. Là on est revenu à un projet plus Ligue 1 classique, Ligue 1 2010-2011, presque la Ligue 1 quand Deschamps est champion de France finalement.
Ouais, et juste pour parler de Ocampos, une petite parenthèse vite fait avec un chiffre, c'est que sur le site cotestat.fr de Julien Assuncao qu'on a déjà eu ici, Lucas Ocampos est tout simplement numéro 1 en termes de contribution aux expected goals de son équipe. Et pas très loin d'être numéro 1 en contribution au but de son équipe, vu qu'il est à 1,18 en expected goals, donc c'est la première place, et il est à 1,12 en but marqué, et il est quatrième derrière Neymar, Falcao, et qui est le troisième à votre avis? Tu l'as mentionné tout à l'heure. Non, Clinton Ng.
Clinton Ng, bah, tu vois, mais comme quoi, c'est vrai que c'est des joueurs où, dans le style de jeu, tu passes pas forcément un super moment à les voir jouer. Mais c'est des gens qui arrivent à se créer vraiment énormément d'occasions. Et Ocampos, c'est vraiment le maître du joueur qui arrive dans un deuxième temps pour marquer un but de raccro parce qu'il est toujours. Il a un volume de jeu énorme et il arrive à se présenter très rapidement dans la surface quand l'OM passe d'un côté à l'autre.
Alors voilà. Alors pour Ocampos, il n'y a pas de surperformance pour l'instant. C'est juste qu'il est, comme tu le dis, très, très visible dans la surface. Après NG, il a 1,2 buts, contribution au but de son équipe par match. Alors qu'aux expected goals, il a 0,44. Donc ça risque de se rééquilibrer à un moment donné le concernant. Mais pour rester sur le projet de l'OM, Christophe, ce qui est assez marrant dans la transformation de l'équipe, en accéléré là, c'est que ça peut un peu faire penser à l'Olympique Lyonnais, en fait, ce qu'il a fait pendant l'intersaison, c'est-à-dire de la fin de son cycle précédent avec les départs de Lacazette et Tolisso, pour arriver au projet actuel. J'ai l'impression que l'OM, en fait, emprunte le même chemin. Et pour moi, la vraie discussion pour l'OM, parce que, à mon sens, sa défense n'a pas été testée par Amiens ni par Toulouse. Et face à Nice, sa défense, elle a quand même pris deux buts et elle s'est faite bouger parce que c'est Mandanda qui a fait pas mal d'exploits pour permettre à l'équipe de s'en sortir avec les trois points. Et l'attaque, au final, elle est efficace pour l'instant, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui va arriver comme à l'OL, c'est-à-dire un départ très fort comme il y avait eu avec Mariano et Fekir, qui avait bien performé sur les premières journées, et ensuite ben, un retour à la normale, peut-être pour des joueurs comme Ndiaye et Ocampos, on vient de parler de leurs chiffres, mais ça va peut-être aussi se rééquilibrer dans les prochaines semaines, et du coup on touchera peut-être assez vite aux limites de ce projet de jeu.
Ouais, après, il y a toujours la question de comment tu construis ton effectif et si t'es pas assez bon pour avoir le pied sur le ballon et construire comme le font Paris ou Nice par exemple, bah ça peut être finalement plus intelligent de te dire je vais prendre un petit peu le contre-pied, je vais surtout jouer sur des transitions, sur un peu des exploits individuels, en tout cas des différences faites sur des débordements, sur des courses, etc. Donc je trouve pas forcément la construction d'équipe si stupide que ça à partir du moment où Payet n'est pas le très très grand joueur en tout cas actuellement que le club a pensé faire revenir. Donc t'as des bons joueurs de ballon, mais t'as pas non plus de quoi construire au milieu quelque chose de vraiment solide pour avoir 55% de possession et créer quelque chose par la passe. Donc je pense que t'es un petit peu obligé de t'en remettre à ça. Après, sur la durée, oui, forcément, est-ce que Ocampos va pas retomber sur un niveau qui semble être plutôt le sien sur le reste de sa carrière, à savoir celui d'un joueur plutôt moyen, moyen plus. Pareil, il y a Engie. Bon, a priori, c'est des joueurs qui sont un petit peu moins doués que Thauvin. Je sais pas, je t'avoue qu'effectivement, moi, je pense que ça va peut-être se calmer un petit peu et qu'à ce moment-là, tu auras besoin que Payet élève le niveau, que Luis Gustavo peut-être apporte encore un petit peu plus, peut-être que tu remplaces Zambo par Maxime Lopez pour avoir un petit peu plus de possession.
Ou
Mais pour
Sanson aussi.
l'instant, ouais, Sanson forcément. Mais bon, pour l'instant, ça fonctionne, il n'a pas de raison de changer. Je t'avoue que c'est pas l'équipe qui m'enchante le plus quand je tombe dessus, mais pour l'instant c'est cohérent, les résultats sont là, donc on verra quoi. Je pense que si ça s'essouffle, là il faudra changer quelque chose et donc revoir comment tu peux faire, pourquoi pas avec Payet, Sanson, Thauvin, mais pour l'instant si Ocampos marque des buts,
Oui.
autant rester là-dessus
Autant
quoi.
continuer, oui. Raphaël, une question justement, on en a un petit peu parlé là, de Dimitri Thomas sur Twitter. Donc, Twitter a vu du bon podcast. Vous pouvez nous poser des questions toute la semaine et on essaie d'y répondre dans les podcasts si elles valent le coup. Maxime Lopez va-t-il disparaître?
Voilà, ouais,
Question
c'est
cash,
un peu
hein.
cash comme
Ouais, c'est
question.
cash. Ouais.
Il disparaîtra toujours moins qu'Estelle Mouzin, mais ouais, la question que je me pose, c'est où est-ce que va le faire jouer Garcia quand il va rentrer dans la rotation et vu comment il le conçoit pour l'instant, j'imagine qu'il n'y a que à la place du numéro 10 de Dimitri Payet qui peut à
Mais
peu près entrer dans
il
la
me
rotation
semble
alors que Sanson pourrait jouer en tant que 8.
que face à Salzbourg, pardon, en coupe d'Europe, il me semble que Lopez joue numéro 10, ouais, justement.
Ouais, c'est ça. Donc c'est après. Bon, moi, je pense que Lopez sera pas à terme un numéro 10 parce que je le vois plus comme un joueur qui t'aide à maintenir une possession élevée, à faire les bons choix à la fois dans ton camp et dans le tiers du milieu où tu dois trouver des solutions à l'intérieur. Il peut se retourner sur une prise de balle. Je le vois moins comme un joueur décisif dans les 30 derniers mètres, mais je pense que Garcia, vu comment il le fait jouer et là, et comment il ne le fait pas jouer, il le juge trop dangereux pour l'équilibre de ce défensif de l'équipe s'il doit jouer vite, surtout dans un 4-2-3-1. Donc il y a la solution de le faire jouer, de le faire tourner avec Payet qui n'a pas non plus le coffre qu'il avait avant et qui peut. Il y a plusieurs compétitions. Après moi je trouve ça toujours dommage d'avoir un joueur aussi doué et je sais que toi aussi tu étais fan de ce joueur et on avait été très marqué par ses qualités lors de ses premières apparitions, de ne pas parvenir à le faire entrer dans l'équipe, mais à un moment tu as une obligation de résultat quand tu es Rudy Garcia, surtout quand tu as été sous pression comme il l'a été il y a quelques semaines. Et à la limite, Maxime Lopez paye un peu le prix de la sécurité du job de Garcia parce que dans sa progression, c'est un petit frein, comme Cosielo a connu à Nice d'ailleurs il y a quelques temps, et comme il semble retrouver un frein maintenant que Tanpaïs Mendy est revenu à Nice. Je trouve ça dommage, mais quand tu vois l'OM fonctionner comme il fonctionne en ce moment, c'est difficile de contester le choix de Garcia. Donc au poste de numéro 10, et quand il y aura du temps de jeu pour lui, j'imagine qu'il y en aura et qu'il y aura pas trop de soucis. Après, j'espère qu'à terme, Garcia pourra retrouver un projet de jeu. Ça passera peut-être par du recrutement ou par plus de temps pour travailler, mais un projet de jeu plus fidèle à ce que lui entrevoyait au début de son arrivée à Marseille.
Ou
Ça,
alors,
sinon, petite stat, je vous interromps, qui n'a strictement rien à voir, mais je tombe dessus.
Marseille est l'équipe qui attaque le plus côté droit avec 46% de ses attaques. Donc
Ouais, ça
c'est
c'est.
une équipe un peu déséquilibrée.
Ouais, bah c'est Florian Thauvin qui aimante le ballon.
C'est ça, Thauvin et justement Ocampos qui joue à gauche et qui va finir dans la surface, quoi,
ouais,
comme
c'est ça,
ce
ouais.
qu'on disait tout à l'heure. On va enchaîner, on va pas aller très loin dans le classement, on va descendre à la quatrième place parce qu'au final il y a beaucoup de questions sur le FC Nantes. Le FC Nantes de Ranieri, qui après avoir pris une belle volée face à Lille lors de la première journée et avoir perdu, je crois, face à l'OM lors de la deuxième, est remonté de manière très rapide au classement et se retrouve aujourd'hui au pied du podium. Alors, la seule question, elle est posée par plusieurs personnes, par Vincent Ferrer, par Monsieur Lee et par Fabien Burgot. Les trois ont la même question. Raphaël, Nantes, est-ce que ça peut tenir?
Oh là, peut-être faudrait poser la question à quelqu'un qui a plus vu Nantes, parce que je viens de dire que j'avais pas vu Nantes du tout.
Alors moi, je peux un petit peu donner quelques indications. Alors, c'est une équipe en effet une très bonne défense. Ils ont pris que 5 buts depuis le début de la saison. Une défense qui performe quand même pas mal parce qu'au niveau des expected goals, ils sont à 8,8, donc ils en ont encaissé un peu moins. Mais là, on peut aussi parler de Tatarusanu qui a, il me semble, fait un bon début de saison. C'est une équipe aussi qui concède des occasions, qui concède peu de grosses occasions. Le expected goals par tir est en dessous des 10%, donc c'est assez positif. Par contre, de l'autre côté, quand on parle de l'attaque, c'est 6 buts marqués. En expected goals, ils sont à 7,28, donc c'est pas forcément beaucoup mieux. C'est dans la deuxième moitié du tableau au niveau des expected goals, côté attaque. Les attaques sont pas de grande qualité parce que les positions de tir sont pas énormes non plus, c'est 8% de chance de marquer par tir. Et quand on prend la différence de but, alors la différence de but elle est à plus 1, mais la différence de XG elle est à moins 1,5, donc c'est pas une équipe non plus qui domine son sujet. Et au niveau des tirs, ils sont à 1,6. Alors pour se remémorer ce qu'avait fait Ranieri avec Leicester à l'époque, au niveau de sa défense, le fait de défendre bas et de subir, il avait un petit peu les mêmes chiffres, c'est-à-dire qu'il n'avait pas la meilleure défense du championnat, mais ça concédait quand même pas mal de tirs, etc. Mais vu que ça défendait bas, les tirs étaient difficiles à prendre. Donc au niveau de la défense, il a peut-être construit quelque chose. Par contre, au niveau de l'attaque, et ça, on l'a un peu zappé à force, parce que le titre de Leicester, ça remonte un peu. Enfin, ça fait 2 ans maintenant. Mais il avait quand même la deuxième meilleure attaque de première ligue au niveau des expected goals. Je crois qu'il était derrière Arsenal. Donc la seule conclusion qu'on peut tirer, si on prend cet exemple Leicester, c'est que si Nantes se trouve rien devant, ça va redescendre tranquillement. D'autant plus qu'ils ont eu un calendrier facile sur ces 8 premières journées. Puisque je crois qu'avec Caen, j'avais calculé ça en prenant les classements de toutes les équipes l'année dernière et en faisant un classement vite fait, c'est-à-dire Paris c'était Monaco c'était 1, Paris c'était 2, et puis je trouvais le classement moyen à la fin des adversaires. Et Nantes et Caen sont les deux équipes qui ont eu le calendrier le plus facile entre guillemets sur le début de saison. Donc
Ouais,
voilà.
et ça se voit au classement parce qu'ils sont plutôt bien par rapport à ce qu'on attendait d'eux.
C'est ça.
Mais ce que tu as dit sur Leicester, c'est intéressant parce qu'à Leicester, il avait aussi les joueurs qui profitaient de cette défense basse pour attaquer correctement, c'est-à-dire Okazaki, Vardy, Mahrez. Et à Nantes, il n'a pas forcément des joueurs qui s'exprimaient très bien dans des grands espaces. Quand tu penses à Salah ou à
Nakuma.
Nakuma un peu plus, peut-être à Bamou, ce n'est pas des joueurs de grands espaces, c'est plutôt des joueurs de centre et de duel aérien, de bataille dans la surface. Donc c'est peut-être logique que Ranieri arrive à construire sa défense solide tout en étant lacunaire dans le domaine offensif. Alors là aussi, ça passera peut-être par du recrutement cet hiver. Mais vu comme c'est parti, j'imagine qu'ils vont se contenter d'un projet de jeu solide qui te permettra en Ligue 1 de te maintenir comme ils l'avaient fait il y a 1 ou 2 ans avec Derzakarian, Carian, où ils font 11 ou 12e en marquant 30 buts sur la saison. Et c'est typiquement ce qui peut se passer avec Ranieri cette saison. Et il s'appuie aussi sur le système qu'avait mis en place Conceição quand lors de son passage, un 4-4-2 solide, classique, avec peu d'étincelles. Mais écoute, c'est suffisant pour l'objectif que s'est fixé Nantes en début de saison.
Christophe, quelque chose à rajouter ou on enchaîne avec ton bonbon breton?
Enchaînons sur le
Enchaînons.
bonbon.
Et donc toi, tu voulais nous parler de Marcus Thuram.
Absolument, j'en avais. On va pas faire très long, sinon je pense que le podcast va durer 8h43. Mais J'ai vu Marcus Thuram ça et là, et notamment quand j'étais au match de Lille à Guingamp. Et je suis assez mitigé sur ce joueur. Alors on va dire pourquoi est-ce que tu veux parler d'un joueur sur lequel tu es mitigé, je n'en sais rien. Mais en fait, alors j'aime bien le principe de Marcus Thuram, j'aime bien ce qu'il apporte dans une équipe, à savoir le fait d'être plutôt combatif, on va dire qu'il lit plutôt bien le jeu, il sait à peu près se positionner. Il a pas mal de choses d'un futur bon attaquant, je pense. Le problème, c'est qu'il a de grosses difficultés à marquer. Alors, bien sûr, je dis ça, il a marqué 2 buts cette saison, les deux sur le dernier mois, notamment celui qui permet d'avoir un point contre Toulouse. Donc, bon, ça peut paraître bizarre, mais il a quasiment pas marqué en carrière. Je crois que même si tu prends la CFA, il est à 9 buts. À Sochaux, chez les pros, il avait marqué un but en 43 matchs. Donc, ce qui est quand même très, très faible pour un attaquant. Et je pense que c'est un joueur dont on parle pas, enfin, qui ne brille pas suffisamment, tout simplement parce qu'il est associé à Jimmy Briand. Et Jimmy Briand, c'est un très bon attaquant, très complet, mais encore là, dans le vestiaire, il était invité là sur SFR Sport il y a 1 ou 2 jours, et il disait que lui préfère faire marquer plutôt que marquer, qu'il a toujours été très collectif, etc. Et je pense que finalement, Guingamp a un bon 4-4-2, c'est super solide, le job de Comboiré est vraiment bon, c'est bien équilibré. Mais ces deux attaquants ne sont pas des buteurs. Et du coup, c'est un peu redondant, bien sûr. Briand est pour l'instant un niveau au-dessus de Thuram. Mais je pense que Marcus Thuram, ça pourrait devenir un très bon attaquant de complément à côté d'un vrai buteur. Donc là, dans un 4-4-2 pour le coup. Et que si tu mettais soit enfin un grand buteur à côté de Briand, soit à côté de Thuram, l'équipe pourrait vraiment passer un cap. Là, pour l'instant, tu as 2 bons joueurs de collectif. Voilà, donc si Marcus Thuram change de club, ou alors si Guingamp fait un gros achat devant, je pense que ça peut encore passer un cap, mais voilà, ça fait partie des joueurs dont on ne parle pas et je pense dont les performances sont un petit peu sous-estimées. Je voulais dire un petit mot là-dessus parce que c'est à peu près l'inverse d'un par exemple d'un El Ghazi côté lillois qui bouffe tous les ballons ou même un Depay qui va faire quelques stats mais un peu dans le vide parce qu'à force de tenter des trucs, il y en a bien un qui passe. Bah, Thuram pour l'instant ne fait aucune stat mais il bouffe pas du tout le ballon.
Il
Donc le
pèse.
jour où il apprendra à cadrer, à frapper correctement, etc., je pense que ça pourra devenir un vrai bon joueur parce qu'il a l'air de plutôt bien comprendre le foot.
Mais je te rejoins là-dessus parce que je l'avais vu moi à Bordeaux face aux Girondins et il avait été un gros problème pour la défense bordelaise. D'ailleurs, dès la première minute, c'est sur lui que Toulalan se jette pour faire une faute parce qu'il est en retard, etc. Et un joueur pour avoir la chance de voir les matchs assez près du terrain, aussi assez impressionnant physiquement. Je me demande s'il n'est pas plus baraqué que son père, donc
Ah ouais, c'est
ça
sûr.
pose le truc. Raphaël, toi, tu voulais nous parler d'un autre bonbon, un autre jeune joueur aussi,
Ah.
c'est Samuel Grand-Cyr de Troyes.
Oui, parce que mes dimanches après-midi, parfois je regarde les matchs de l'Estaque. Et j'avais vu en début de saison un 3-Rennes où il avait déjà été bon, ça avait fini en match nul, mais il m'avait impressionné. Et là, j'ai vu la victoire de 3 contre Saint-Etienne à 10 contre 11, avec notamment un superbe coup franc de l'ancien joueur de l'OM, là, Kawi, qui a mis un beau coup franc en lucarne à Ruffier. Mais j'ai été encore une fois impressionné par Samuel Grand-Cyr. Je trouve que c'est un joueur qui a énormément d'intelligence dans ses choix, tout en associant à ça une qualité de percussion pas rare en Ligue 1 parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans ce profil, mais cette capacité à percuter de manière intelligente. Il fait notamment une passe D à Brian Pelé dans ce match là où il élimine deux fois, je sais plus quel défenseur il a en face de lui, mais enfin il fait la misère
Perrin.
et ensuite il centre au deuxième poteau pour Pelé. C'est une action, je trouve, sur des actions où tu as plusieurs bons choix, des prises de décision intelligentes répétées dans un laps de temps très court et la qualité technique, c'est-à-dire l'exécution pour le faire. C'est signe en général d'un joueur qui a beaucoup de choses à apporter et il me fait un peu penser dans ce domaine à un ancien joueur de Troyes qui ressemblait un peu, c'est Jimmy Cabot. Sauf que je pense que Grand-Cyr est peut-être plus fort au même âge, et là il a 21 ans, Grand-Cyr. Donc je suis curieux de voir ce qu'il va faire sur l'ensemble de la saison, et s'il reste à ce niveau-là, ce qui se passera l'été prochain pour un joueur de ce niveau-là et de ce profil-là, parce que c'est quelqu'un qui a l'air vraiment d'être à la fois bien dans le collectif et d'être décisif dans des situations où il doit le faire individuellement.
Je pensais que tu allais le rapprocher de Thomas Lemar, moi,
Ah ouais, mais
en
j'ai l'impression que c'est
parlant.
beaucoup plus dans un profil d'ailier que tu sais
Percutant,
que
ouais,
dans un
c'est vrai.
profil ouais,
On
que je vois pas
l'imagine
jouer
moins un
relayeur,
8.
tu vois.
Voilà,
Ouais, voilà, c'est
exactement.
ça, ouais.
Et
Mais c'est vrai que c'est intelligent, c'est aussi intelligent que Lemar sur les apparitions qu'on le voit faire en ce moment.
Ouais, moi je l'avais trouvé très bon ce qu'il fait sur l'action. C'est Perrin qui l'enrhume du coup face à Saint-Étienne, je crois. C'est assez exceptionnel parce qu'il part de loin en plus. Et moi, ouais, je l'avais trouvé. Là encore, je vais parler parce que je l'ai vu à Bordeaux, au bord du terrain. Je l'avais trouvé très bon. Il fait une passe décisive à Bordeaux où c'est pas Perrin qui prend cher, mais cette fois-là, c'était Toulalan qui s'était fait avoir. Et ouais, c'est un joueur
qui. Il doit détester les hommes aux cheveux gris.
Ouais, peut-être. C'est un joueur en tout cas que je trouvais très fort. Et tu vois, pour rester sur Bordeaux, c'est la dernière fois qu'on en parle aujourd'hui. Mais le jour où on vend Malcolm, avec tout ce qu'on a récupéré, c'est un joueur vers lequel j'aimerais bien que l'équipe se tourne, quoi. Voilà.
Ah non, mais vraiment, vraiment à suivre. Et si vous avez la chance d'avoir un match de 3 devant vous, ne zappez pas forcément. Il y a vraiment un joueur de qualité dans cette équipe. Et même d'autres d'ailleurs.
Ouais, il y en a quelques autres. À part l'entraîneur, hein, Christophe, ou un peu plus compliqué.
Jean-Louis Garcia prouve qu'il peut faire des bonnes choses, donc je retire ce que j'ai dit et bravo à lui.
D'accord.
On enchaîne, Christophe, on va parler un petit peu d'Angers, en descendant un peu dans le classement. Angers qui est pour l'instant en 15e.
12.
Non, 12, pardon. Et donc Angers qui. Enfin, à mon sens, c'est une équipe qui, depuis qu'ils sont remontés, progresse chaque année. Et cette année, en fait, c'est la fin du. L'an dernier, elle traînait toujours ce cliché d'équipe ennuyeuse. Et là, cette année, quand on regarde Angers, ben, ça joue, quoi. Il y a pas mal de spectacles. Et notamment, ben, quand tu remplaces au milieu de terrain un joueur comme Ndoye qui part et que tu vas chercher un joueur comme Fulgini, qui était à Valenciennes et que moi, je trouve très bon cette saison. Et eh ben, ça change pas mal de choses et aujourd'hui c'est une équipe vraiment agréable à voir, je trouve.
Ouais, une équipe qui marque beaucoup de buts là, ils doivent être 6-7e meilleure attaque et leur classement.
Ça,
alors,
ça aide de jouer Lyon aussi.
Alors oui, ça aide de jouer Lyon, mais n'empêche que le calendrier n'était pas forcément facile, c'est pour non. ça qu'au niveau du classement ils sont pas top top.
J'en parlais et tout à l'heure, je te coupe vite fait, j'en parlais tout à l'heure pour Nantes-Caen qui avait le classement le plus facile. Angers avait le calendrier pardon le plus compliqué justement sur ce début de saison.
Bah oui, voilà. Bordeaux, Marseille, Lille. Bon, on a su après que c'était un petit peu plus compliqué, mais
Lyon, Nice,
Lille, Nice, Saint-Étienne. Ouais. Enfin voilà, Lyon. Donc déjà réussir à pas être décroché au classement, à être à seulement 2 points de Nice, alors que t'as joué pas mal de grosses équipes, c'est pas mal. Et c'est vrai qu'au-delà de ça. Bah on voit la patte Stéphane Moulin qui réussit à s'adapter et qui ne fait pas que qu'être bon sur coup de pied arrêté, le cliché qu'on pouvait avoir. C'est vrai qu'ils avaient des très bonnes stats parce qu'il y avait Mangani qui déposait tous les coups de pied arrêtés sur la tête de Shakendoy, donc forcément ça permettait de marquer des buts faciles. Mais là, quand tu as un milieu de terrain de Mangani, Santa Maria, Fulgini, c'est vraiment trois très bons joueurs de ballon et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui peuvent se permettre d'avoir autant de talent dans l'entrejeu, en tout cas de talent sur le fait de bien passer le ballon, de bien construire, parce qu'à la récupération il y a peut-être parfois quelques lacunes.
En plus, t'as pas parlé du Bonucci français encore.
Bah, je te laisserai le faire juste après. Mais c'est vrai que moi, Fulgini, je le connaissais de Valenciennes, que je le voyais jouer. Il jouait notamment latéral. Là, maintenant, il s'est replacé vraiment comme milieu plutôt numéro 8 parce qu'il peut pas mal apporter offensivement. À la fois, on va dire, ça peut ressembler par certains côtés un peu à Cyprien, à la fois récupérer, mais aussi se projeter, arriver sur les seconds ballons, un peu lancer en deuxième rideau. Et bon, j'ai quelques réserves sur Crivelli en attaque, Baptiste ouais. Guillaume, des joueurs qui sont un petit peu moyens. Mais sinon, autour, même Toko et Cambi, quand il part du côté pour repiquer dans l'axe, il y a vraiment pas mal de choses. Et en plus, pour finir, même si il y en a certains qu'on voit un petit peu moins cette année, mais par exemple, un T qui sort un peu de nulle part, qui est très peu connu, ils avaient payé Eric Capel. Ils arrivent vraiment à faire émerger des joueurs voilà, qui n'ont pas spécialement de référence, à les intégrer dans un collectif qui tourne bien.
C'est vraiment l'équipe où il y a le plus de têtes de joueurs de foot corpo, quoi. Les Johan Andreu, Flavien T, tu sais, Baptiste Santamaria, genre c'est. Tu les connais pas trop, mais une fois que tu les vois jouer, tu fais ah, d'accord, ok, c'est des vrais joueurs de foot.
Ouais, Flavien T avait fait un très très bon match à Nice notamment. Je crois qu'il a été bon aussi face à Lyon lors du 3-3. Bon, ouais. Toi, donc tu voulais nous parler du Bonucci français.
Eh ben non, mais parce que toi aussi
Oui,
tu aimes
j'aime
beaucoup ce
beaucoup.
joueur, d'ailleurs même plus que moi je pense, mais c'est vrai que Romain Thomas, depuis que tu en as parlé, je le regarde d'un œil différent. Et c'est vrai qu'il y a une qualité de relance et une élégance.
Ouais, c'est ça.
Bah d'ailleurs qui jurait un peu dans cette équipe d'Angers récemment parce que c'était une équipe très portée sur le long ballon et la bataille pour le second ballon, surtout avec Ndoye et avec l'attaquant dont j'ai oublié le nom, enfin un grand. Ah, Famara
Oui,
Diédhiou, pardon,
c'est ça, ouais.
qui était un attaquant avec une foulée particulière. Voilà, c'était une équipe vraiment portée là-dessus. Et ils ont changé de style cet été. Et que c'est quasiment, franchement, parfois il y a des moments où c'est quasiment du jeu de position, la manière dont on joue Angers, avec énormément de joueurs entre les lignes et beaucoup d'actions avec le troisième homme pour trouver un joueur face au jeu, notamment pour ressortir le ballon à la récupération. Et là, c'est vrai que Romain Thomas, on voit toutes ses qualités là-dedans. Et même dans le duel, je trouve que c'est un joueur plutôt doué, qui est pas une dangerosité défensivement pour son équipe. Donc c'est vrai que c'est maintenant un joueur qui a atteint un certain âge, mais c'est un plaisir de voir une équipe comme ça pouvoir changer, et surtout ça coupe un peu la réflexion des entraîneurs qui parfois te disent oui, ben on fait avec ce qu'on a, mais parfois il suffit de changer 2-3 joueurs et pas forcément des joueurs à 10 millions pour pratiquer un football plus agréable. Et d'ailleurs, dans les résultats, ça n'a pas non plus tellement desservi Angers jusque-là. Donc j'espère que ça va continuer pour pousser les quelques équipes en Ligue 1 qui sont toujours dans un football un peu sommaire, parce qu'il y en a de moins en moins dans le championnat et c'est une bonne chose, à montrer aussi d'autres choses et à pas être limité à un plan de jeu ou un projet de jeu très, très classique et très old school.
Et puis il y a Katkeo là
Qui
qui
va
va pas
revenir.
trop tarder à revenir. Donc
Ouais, alors
ça
j'ai
peut aussi
l'impression qu'il est
agir.
absent depuis 3 ans,
Ouais,
Ketkeo,
ça fait
quand même.
longtemps parce qu'il s'est
Bah,
blessé pas l'année dernière, l'année d'avant, je crois, il me semble.
autant de mois d'absence que de nombre de lettres
Ouais,
dans son nom de famille.
possible. Mais oui, pour finir sur Romain Thomas avant de passer au championnat étranger, en termes, tu parlais d'élégance. Je pense qu'il y a peut-être deux défenseurs aujourd'hui français en Ligue 1 qui partagent un petit peu ce même style. C'est lui et le marchand
Cédric Yamberé, non? Ah non,
le
pardon.
marchand de Nice.
Oui, c'est vrai que
On
Marchand
les
était
rapproche un peu, voilà, sur le
Max la
plan.
menace.
Ouais. Alors, est-ce qu'on parle de Rennes, Raphaël? Est-ce que tu veux parler de Rennes vite fait ou pas?
Bah, j'ai l'impression qu'on a déjà pas mal parlé de Rennes cette saison, au grand désarroi de certains supporters rennais qui nous suivent, je pense à Denis Rau par exemple. Mais non, bah, écoute, moi j'étais très enthousiasmé à l'idée de suivre Rennes cette saison. Et puis la performance à Marseille m'avait rassuré après un début de saison difficile, je me disais ça y est, c'est parti. Depuis, ils ont perdu Ismaïla Sarr et ça m'inquiète franchement pour cette équipe qui, même quand elle marque beaucoup de buts, n'arrive pas à garder sa cage longtemps inviolée. Donc je m'inquiète vraiment pour cette équipe et pour Christian Gourcuff, alors que j'ai vu des séquences parfois très intéressantes qui rappelaient un peu le jeu de Lorient. Mais il y a toujours ce problème du 4-4-2 trop plat. Et d'ailleurs, j'ai vu Christian Gourcuff en parlant en conférence de presse qui cherchait justement à ce que ses joueurs déforment ce 4-4-2 en phase offensive. Et il y a heureusement eu l'arrivée de Caserie. Mais là, la perte d'Ismaïla Sarr, qui était un des seuls joueurs avec Moubele capable de marquer des buts, ça m'inquiète grandement pour cette équipe. Et j'espère qu'ils vont réussir à se relever rapidement parce que ça commence un peu de la même façon que la saison dernière. Et voilà, je ne suis pas rassuré. Alors que pourtant, il y a tellement de bons joueurs dans cette équipe. Quand tu penses à Niagnon, tu penses à Benjamin André, tu penses à Bourigeaud, tu penses à des joueurs comme ça, tu te dis c'est pas possible qu'une équipe comme ça soit autant en difficulté. Et malheureusement, c'est le cas.
Allez, on enchaîne, Christophe. On va aller en Angleterre où on va parler de Manchester City pour commencer. Alors, Manchester City, en début de saison, il y avait un projet, on va dire, un projet latéraux. On a chopé Benjamin Mendy, on a chopé Kyle Walker
Et Danilo.
et Danilo. Mais donc, c'est ces joueurs-là qui étaient censés apporter la largeur cette saison. Et puis, bah, finalement, Mendy s'est blessé. Et du coup, Guardiola est en train d'un petit peu de revoir sa copie, quoi. Mais ça marche, hein, puisque City est en tête. Et en termes de stats, au niveau expected goals et vrais goals aussi, bah, tout est au vert, hein, meilleure attaque et meilleure défense de Première Ligue à l'heure actuelle. Donc, il n'y a pas grand-chose à redire à ce niveau-là.
Ouais, je pense qu'à partir du moment où ils arrivent à étouffer l'adversaire et à vraiment se procurer 6, 7, 8 occasions très nettes, même pas par match mais par mi-temps, je pense qu'ils sont à l'abri face à quasiment toutes les équipes de première ligue. À partir du moment où ils s'encaissent pas un but con et où ils se retrouvent à devoir courir après le score, parce que sinon t'as toujours le risque de ne marquer qu'un but. Mais sinon là on a vu, bon déjà la défense est quand même beaucoup plus solide. C'est vrai que bon il y a le projet latéraux, je réponds un petit peu à côté de ta question, mais Au départ, forcément, avec Walker et Mendy, tu devais faire la différence sur les côtés. Et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment manquer en Ligue des Champions. Pas forcément maintenant, mais si tu arrives en quart, je pense que tes adaptations risquent d'être un petit peu moins bonnes que le projet de départ. Mais là, l'équipe qui était alignée face à Chelsea, quand tu arrives à mettre autant de bons joueurs dans les 30 derniers mètres avec Sterling, Jesus et Sané devant le ballon, Kevin De Bruyne avec le ballon dans les pieds, avec à ses côtés David Silva, bah t'as deux excellents lanceurs, plus trois joueurs devant qui peuvent soit faire les appels, soit faire des différences. C'est Gabriel Jesus qui est toujours un joueur exceptionnel, qui va faire les bonnes remises, etc. Toujours participer au jeu. Bon, même si là Agüero s'est blessé, mais en plus Agüero commence à comprendre un petit peu et. Voilà, c'est pas encore c'est bizarre à dire, mais c'est pas encore Réjouz dans dans le jeu avec le troisième homme, etc., dans les remises. Mais il commence à beaucoup plus participer à la construction des phases et pas seulement être à la finition. Sachant qu'en plus, à la finition, il est encore plus en réussite que l'an dernier, donc du coup, il y a progression sur tous les secteurs. Mais c'est vrai que je pense que City, à partir du moment où ils arrivent à arriver très facilement dans la zone dangereuse, quant à Sané, qui en ce moment a retrouvé sa forme de la fin de saison dernière, où il dribble tout le monde très facilement, que David Silva, pareil, retrouve un petit peu la forme, sachant que, enfin, un petit peu la forme, façon de parler, il retrouve son très haut niveau avec toujours la même qualité de pied, qui
Est-ce que
partage
c'est
avec De Bruyne, qui partage avec Bernardo Silva.
Est-ce que ses
Il a
cheveux ont
tellement de
repoussé
talent.
Est-ce que ça vient de là? Non?
Je sais même plus. Non, mais.
Pardon, je t'avais coupé.
Oui, non, tu m'as perturbé là, c'est terrible. Parler des cheveux de David Silva.
C'est vrai qu'il a la
Ils
gueule
sont.
de Zabaleta.
Non,
Hein.
ouais, voilà, c'est ça. Mais t'étais sur
Ça.
Bernardo, t'enchaînais avec Bernardo Silva.
Ouais. Non, mais c'est pour dire que au-delà des latéraux, il a quand même ajouté encore de nouveaux meneurs de jeu. Si tu parles juste sur le côté, je peux prendre la balle et je peux faire la bonne passe. Et comme en plus, derrière Stones a quand même passé un cap hein, que Kompany est parfois apte de peut jouer quelques
Et
matchs.
surtout que t'as un gardien qui n'est pas une passoire comme Bravo la saison dernière, parce que c'était un
C'est
souci
vrai.
assez basique à analyser, mais dont tu pouvais pas l'éviter dans l'analyse.
Bon,
Là,
quoi
t'as un.
qu'après 7 matchs l'an dernier, Bravo faisait. Je crois que City avait gagné tous ses matchs et Bravo était encore bon. Donc on va attendre. Mais c'est vrai qu'Ederson a, je pense, au moins autant de qualité de relance que Bravo. Et pour l'instant, il fait vraiment les arrêts que Bravo ne faisait pas. Parce qu'en gros, tu concèdes toujours une occasion en première mi-temps. Et dans la mauvaise période, Bravo la prenait. Du coup, tu étais à 0-1 et tu galérais face à une équipe qui se repliait encore plus.
Il avait
Là,
fait
tu restes à
des.
0-0, tu finis par marquer ton but et après, t'es tranquille, quoi.
Je sais pas si tu te rappelles, Krim, il avait fait des matchs consternants. Bravo la saison dernière. Le match à Everton, là où il prend des buts que dans des angles impossibles, normalement pour l'attaquant, c'était particulier.
Ah oui, non, c'était du Suareola. Au bout d'un moment, il faut dire les choses. Mais c'est vrai que bah, sur le début de saison, il était. Bon, il a vu quelques frayeurs, notamment contre Manchester United quand il gagne 2-1. Mais c'était pas encore. Je veux dire,
Ouais.
son creux était arrivé
À
avec
partir du
l'hiver
moment où
anglais.
City a concédé des occasions, en fait.
Ouais, c'est ça. Donc, tu dis petite incertitude, mais juste par l'expérience. Parce que sinon, si tu juges juste Ederson sur ce qu'on voit sur son début de saison, plus ce que moi j'ai aperçu de Benfica, tu te dis qu'a priori, il prend un peu le chemin dans un style légèrement différent, mais d'un All Black, d'un jeune qui franchit toutes les étapes sans problème, ou d'un Courtois à son époque.
Mais est-ce que c'est pas la plus grosse frappe d'Europe? Parce que j'ai l'impression qu'il a un coup de pied à la Damien Traoré, le truc, il l'envoie à l'autre bout du terrain sans le moindre effort.
À la François Stein qui te fait des drops de 55 mètres. Ouais, c'est possible.
J'aurais jamais pensé qu'on parle de rugby dans ce podcast. C'est vraiment le déclin, là. Je pense qu'il faut qu'on arrête cette troisième saison.
Non, attends, réponds à cette question avant, Raphaël.
Ah,
Christophe,
je
on
reste
a
là.
parlé vite fait par rapport. Parce que pour rebondir un petit peu sur l'actu récente, Ancelotti qui s'est bien fait trasher, a priori, par Arjen Robben sur le contenu de ses séances et sur le fait que les joueurs ne progressaient pas avec lui, etc., etc. On voit un petit peu à City, Christophe a mentionné, a parlé du cas d'Aguero, il y a aussi John Stones.
Otamendi dans la relance.
Au-delà des recrutements, on sent aussi vraiment des joueurs qui progressent d'une saison à l'autre, et ça se voit, quoi. Stones, moi, sur les 2-3 matchs que j'ai vus de City cette saison, pour moi, c'est pas le même joueur, pas du
Ah
tout le même joueur
mais
que la saison dernière, quoi.
défensivement surtout parce qu'il a
Ouais.
toujours eu la qualité naturelle pour jouer vers l'avant. Alors que Otamendi était un bon défenseur de duel mais n'avait pas la qualité pour jouer vers l'avant et dès qu'il a joué avec Guardiola, il a appris très très vite à jouer vers l'avant. Donc peut-être qu'il avait cette qualité-là mais qu'il ne l'exploitait pas. En revanche, Stones, ouais, c'est une formation de défenseur où t'es quasiment parti de zéro et c'est un peu la même chose que Guardiola avait fait avec Boateng au Bayern Munich. Et que Boateng racontait dans le bouquin de Marty Perarnaud en disant, voilà, moi je défendais à l'instinct, on m'a jamais donné de consigne, parce que j'imagine que ça fait partie de ces joueurs qui athlétiquement ont toujours
Oui,
eu tellement
supérieur.
d'avance quand
Ouais.
jeune qu'en fait l'entraîneur il allait plutôt s'occuper des joueurs qui avaient besoin d'être corrigés. Boateng il devait avoir aucun souci et je pense qu'il dégageait tous les joueurs à l'épaule. Voilà, Guardiola lui a appris ça et je pense que Sloane ça a été peut-être plus difficile parce qu'il n'a pas forcément l'avantage athlétique sur les attaquants de première ligue. Et donc Guardiola a dû lui apprendre avec vraiment des codes et là je pense que c'est une super nouvelle et ça me fait penser à ce qu'avait dit Klopp un moment à des journalistes qui critiquaient Liverpool, c'est vous êtes fasciné par le recrutement et vous vous intéressez jamais à la progression des joueurs. Et en effet, le travail d'un entraîneur, c'est principalement la progression des joueurs. C'est le projet de jeu, c'est le style de jeu, c'est tactiquement, est-ce que tu es prêt pour un huitième de finale de Ligue des Champions? Mais c'est aussi, et n'en déplaise à Willy Sagnol, la progression des joueurs, même une fois qu'ils sont sortis du centre de formation. Et là-dessus, Guardiola est peut-être sous-coté.
Christophe, là-dessus, quelque chose à rajouter? Ou on passe au grand rival de City cette saison?
Non, bah, j'ai voulu parler de tout et rien en même temps de ma précédente
Donc
intervention,
t'avais
juste
tout mis.
pour... Ouais, voilà, j'ai
T'avais tout
tout
mis.
mis
Ok.
en espérant un peu tout. Mais on va voir pour le coup sur ce que, pour rebondir ce que disait Raph, par exemple ce que va faire Danilo, qui était un défenseur assez cataclysmique avec le Real, qui était surtout un contre-attaquant. Est-ce que Guardiola, enfin, ça a surpris pas mal de monde, le choix de le recruter, même si finalement, vu le prix du marché, il était relativement abordable pour un joueur du Real acheté par un club anglais. Est-ce qu'il va faire progresser Danilo sur les phases défensives? Et est-ce que tout simplement Danilo sera confronté à des phases défensives? Ou est-ce que City va tellement étouffer ses adversaires en jouant très haut et en récupérant tout de suite les ballons face à, en plus, il faut le dire, là sur le début de saison de Première Ligue, quasiment tous les petits, ou en tout cas tous les adversaires des gros, jouent repliés dans leur camp, et c'est assez insupportable à voir. Bah, peut-être que tout simplement, il aura quasiment jamais à défendre dans un match, et que du coup, le fait qu'il ne sache pas tellement défendre sur attaque placée, ça se verra pas, parce que City ne jouera jamais en défense dans son camp sur des attaques placées adverses.
Raphaël, un petit mot sur Manchester United et aussi sur le classement aujourd'hui en Angleterre, où quand on regarde le premier tiers du classement, bon, il manque que Liverpool qui est septième alors qu'il devrait être six. Il y a Burnley qui s'intercale entre les deux, mais bon, les choses devraient rentrer dans l'ordre a priori. Mais
Je sais
il y a
pas.
quand même une élite entre guillemets qui était déjà visible la saison dernière et là voilà tout le monde est déjà au rendez-vous,
Un
même
Big
si
Six, tu veux dire.
Ouais, même s'il y a un écart entre City United et les autres, a priori, qui risque de se maintenir sur la saison, parce que quand on voit les chiffres et quelques stats avancées, il y a vraiment un gap entre United, City et puis les autres. Exemple sur l'attaque, où United et City sont aux alentours des 19 en expected goals et des 22 buts marqués, donc. Alors que derrière, Tottenham est à 12, Arsenal est à 13,5, Liverpool est à 16, mais est plombé par sa défense, et Chelsea est à 8 et s'appuie, comme la saison dernière, sur surtout la qualité de finition de ses attaquants
Ouais.
pour
Après
l'instant.
Chelsea déjà l'an dernier, ouais, tu as raison de le
Voilà.
dire, en expected goals n'était pas impressionnant et pourtant ils ont roulé sur tout le monde pendant 6 mois. Donc parfois les expected goals sont à nuancer.
Bah, quand t'as
Et
le talent des mecs devant qui peuvent faire mieux, quoi.
alors que City la saison passée était largement devant en termes d'expected goals et avait du mal à concrétiser ça, à matérialiser ça sur le terrain. Non, mais je crois que c'est assez cohérent avec le recrutement des deux clubs et surtout avec la surpuissance des deux effectifs. Là, ils ont construit et reconstruit en un an et demi, 2 ans, des effectifs qui sont taillés pour normalement faire un quart ou une demi de Ligue des Champions. Et je dirais même en particulier Manchester United, parce qu'ils ont construit, alors là c'est dommage parce que Pogba s'est blessé, mais ils ont construit une équipe très cohérente et surtout des joueurs qui sont complémentaires et qui sont variés. Et moi c'est ce que j'ai bien aimé, là j'avais fait un papier sur l'équipe pour eux, sur l'animation offensive de Manchester, c'est qu'ils ont des joueurs, et c'est ce qu'apprécie Mourinho, lui qui s'adapte et qui a un style de jeu malléable, c'est que il peut piocher entre Martial et Rashford qui sont des joueurs de percussion, entre Mkhitaryan et Mata qui sont des joueurs qui vont se déplacer entre les lignes, entre Ashley Young qui est un joueur que tu peux placer latéral ou ailier qui va te placer des super centres pour un joueur comme Fellaini, mais en même temps au milieu tu peux mettre Ander Herrera. Et voilà, il a un groupe de 18-19 joueurs qui te permet de pratiquer plein de styles de jeu différents et surtout un joueur comme Matic qui a apporté toute son intelligence au cœur du jeu et qui est aujourd'hui le joueur le plus régulier à Manchester United. Donc je suis pressé de voir ça. En même temps, il a pris Lukaku qui est un joueur qui te permet contre les blocs bas de marquer des buts. Et c'était le gros souci de United la saison passée, c'est que tu avais des occasions Mais tu finissais souvent à 1-1 contre Burnley, à 0-0 contre Stoke City. Et dans ces matchs-là, c'est sa spécialité. C'est grâce à ça qu'il avait fait gagner Everton et avancer West Bromwich. C'est que Lukaku, dans ces matchs-là, il va punir l'adversaire parce que c'est un très bon attaquant de surface et qu'il arrive à gratter toutes les petites occasions qu'il peut avoir et à finir parce que il a une présence physique monstrueuse et une qualité technique toujours en progrès. Et comme quoi, on peut aussi progresser, même comme entre départ, on n'est pas forcément le joueur le plus fin. Donc United est vraiment une équipe. Pas effrayante, mais une équipe qui, franchement, s'impose pour moi comme parmi les clubs anglais, peut-être le plus prêt à aller loin en Ligue des Champions, même devant City. Et en championnat, il n'y a aucun doute que Mourinho sera là jusqu'à la 35e, 36e journée avec une équipe pareille. C'est vraiment un club qui progresse par un recrutement intelligent et un joueur qui sait, un entraîneur qui sait agencer ces talents-là et varier les compositions et les 11. On parle souvent de la capacité de Guardiola à modifier son 11 de match en match. Ben Mourinho, il fait un peu pareil, il donne un peu plus de temps de jeu à Martial parfois, un peu plus à Lingard, un peu plus à Martial, un peu plus à Herrera. Et en ce début de saison, toutes les solutions fonctionnent. Donc c'est prometteur et c'est bien de voir une course entre les deux. On avait adoré ça en Espagne et on espère le revoir en Angleterre.
Et Christophe, est-ce que tu rejoins un peu Raph? Tu nous avais dit, je crois que c'était la semaine dernière ou celle d'avant, que tu voyais plus un Barça champion en Liga avec un Real toujours efficace en Ligue des Champions. Est-ce que tu le rejoins? Est-ce que tu rejoins Raphaël là-dessus, c'est-à-dire un City qui va peut-être être par sa capacité à marquer face au petit, à débloquer des situations face au petit, même si, comme le dit Raph, United a chopé Lukaku qui l'aide beaucoup dans ce cas-là. Mais est-ce que voilà, il y a la même chose avec un City plus taillé championnat face à un United qui serait plus pour la Coupe et la Ligue des Champions?
Bah, je pense que City, à force, risque de s'exposer un petit peu trop en Ligue des Champions. Je pense qu'en jouant de la même manière en Ligue des Champions qu'en championnat, tu peux tôt ou tard tomber face à une équipe qui fera soit la même chose que toi en mieux, soit tomber face au Real qui va absorber
C'est un peu
tes
ce qui
attaques et
s'est
qui va
passé
te
à
mettre un
Naples,
poste.
c'est un peu ce qui s'est passé à Naples la saison passée en Ligue des Champions et qui semble se passer aussi cette année en Ligue des Champions.
Voilà, bah le Naples fait des bonnes choses. Et finalement, à chaque fois que tu te livres un peu trop, que tu joues un peu trop, bah t'as ton latéral qui monte, ça balance une balle en profondeur sur Bale ou autre qui va plonger dans le dos, centre en retrait but. Donc c'est sûr que City, il y a un moment où le fait d'avoir systématiquement soit 5-6 joueurs devant la balle, soit tout ton bloc très très haut, tu peux te faire choper par des transitions. Et ce qui arrivera forcément moins souvent en Angleterre parce que t'auras pas, les équipes n'ont pas la qualité technique pour ressortir. Alors que United arrive à marquer là autant de buts. Ils ont ces 22-2 et
Ouais.
21-2 pour les différences de buts, enfin les buts marqués, buts encaissés. Donc United arrive à avoir les mêmes stats, mais en s'exposant beaucoup moins. Et finalement, tu peux, bon, un peu comme par exemple le Real le faisait en championnat l'an dernier, même sans forcément te livrer, il suffit quasiment de balancer des centres. Tu sais que Lukaku, comme à l'époque Ronaldo de la tête, eh ben peut te marquer un but alors que ton bloc reste très en place.
Et surtout de marquer le premier but, c'est ça qui va à United
Et
depuis le
marquer
début
le
de la
premier
saison, c'est
but.
qu'il marque le premier but et ensuite c'est un peu comme le Monaco de Jardim il y a quelques saisons, justement quand Martial n'arrêtait pas de marquer, c'est qu'il devient ensuite en contre-attaque dès que les équipes adverses sont obligées de ressortir, surtout en deuxième période quand elles arrêtent de se dire on va peut-être marquer sur un miracle et que commence à sortir, là United punit à chaque fois l'adversaire.
Ben voilà, tu marques face à un bloc regroupé parce que tu as un joueur de surface qui est au-dessus du lot et parce que tu as des joueurs qui sont.
Et des joueurs
Tu peux
de.
avoir un débordement de Valencia qui va
Ah
centrer, etc. C'est quand même. Tu as quand même des joueurs très propres à la passe. Et derrière, tu sanctionnes sans te livrer, tu mets des contres. Je veux dire, même le Monaco de l'an dernier,
ouais.
tu avais souvent des 3-4-0 où ça, tu marquais le premier but. Et après, tu t'en mettais 3-4 sans forcément te livrer. Juste, tu prenais ce que l'adversaire t'offrait. Et puis, si l'adversaire se livrait jamais parce qu'il avait peur de ça, bah, tu restais à 1-0. Et puis voilà, au revoir, messieurs, dames, bonne nuit.
Et sur coup de pied arrêté aussi, Manchester United, ça va être quelque chose d'exceptionnel parce qu'ils ont des tireurs et ils ont eu de la taille à tous les postes quasiment. Je pense que enfin, même les latéraux sont plutôt costauds, tu vois. Les deux centraux à chaque fois, c'est des tours qui sont très bonnes dans les airs. Matic, Fellaini, Pogba peut marquer de la tête, Lukaku, voilà, c'est
Ouais,
Rashford est grand aussi,
il y
tu vois.
avait.
Ça me fait penser un peu aux équipes NBA, genre Milwaukee, où tout le monde est grand dans l'équipe, quoi, c'est un peu ça.
Il y avait un chiffre, je crois, sur cet été. Ils ont pas recruté en dessous d'1,88 m, je crois.
Ouais,
Donc,
bah c'est
il y
ça, en
avait
fait,
aussi
tu vois clairement
un objectif.
l'exigence qu'a Mourinho envers les joueurs et le projet de jeu qu'il met en place pour la première ligue. Alors après, ensuite en Ligue des Champions, on sait combien les coups de pied arrêtés sont importants et ce sera peut-être encore plus décisif dans cette compétition.
Allez,
Et
Cri.
c'est
6 buts marqués sur un coup de pied arrêté, un
Ah
meilleur club d'Angleterre.
ouais, bah ouais, déjà, ouais.
Donc ça, tu vois, en Ligue des Champions, quand les matchs sont plus serrés, c'est ça qui me fait dire qu'effectivement, je pense que ça peut aller loin. C'est pas forcément garanti qu'ils aillent beaucoup plus loin que City, mais en tout cas, ils peuvent vraiment
En tout cas,
jouer quelque chose.
c'est pas leur poule qui va les arrêter.
Non, ça
A
c'est, ouais,
priori.
c'est sûr. Ça devrait passer, ça. Allez, on part en Espagne maintenant. C'est plus ton truc, Christophe. On va parler un petit peu du Barça, qui est en tête et qui, avec la mauvaise passe du Real, on va dire à la finition, parce que là, pour avoir les chiffres sous les yeux, le Real est à quasiment 21 expected goals pour 13 buts marqués. Donc on est vraiment dans un creux du côté des Madrilènes. Et donc du coup, le Barça en profite. Ils en sont à 18 expected goals pour 23 buts marqués. Donc une légère surperformance, mais qui est aussi explicable par la qualité des joueurs. Et notamment la qualité de Messi, qui sur ce début de saison, là aussi j'ai ces chiffres sous les yeux, qui a 11 buts marqués pour 8,7 expected goals et qui a deux passes décisives alors qu'il en a presque donné trois. Il aurait presque dû en donner trois depuis le début de la saison. Donc voilà, un Barça qui déroule pour le moment sur ce début de saison, qui a eu des matchs assez bizarres, notamment contre Getafe, je crois, où il a rien fait, mais il s'en sort grâce à notamment Paulinho, qui rentre en deuxième mi-temps et qui débloque le match, je crois, il met le deuxième but. Mais voilà, un Barça qui déroule et qui a pour l'instant 7 points d'avance, je crois, sur le Real, donc qui peut voir venir, quoi.
Bah déjà, il y a Lionel Messi qui est l'une des meilleures attaques d'Espagne. Donc ça,
C'est vrai.
il a seulement un but de moins que l'Atlético. Donc
Oui, et
rien
en
que ça.
termes, d'ailleurs, pour pousser jusqu'au bout la stat, en termes d'expected goals, Messi est devant l'Atlético.
Bah voilà. Donc ça.
C'est plus Christophe, c'est plutôt toi qui connais le championnat espagnol, mais si, c'est plutôt un bon joueur.
Ouais, il a de la
Alors, ouais,
qualité.
effectivement, il y a deux, trois qualités que j'ai aperçues chez ce joueur, mais ça fait déjà quelques années. Hein,
À suivre.
je veux pas me lancer des fleurs, mais ça fait déjà 2-3 ans que je le sens bien venir. Alors que Luis Suarez fait lui une très mauvaise saison, il faut le dire. Luis Suarez qui a marqué 2 buts, mais qui est assez cataclysmique dans le jeu. Et de manière générale, le Barça fait pour l'instant pas un très bon début de saison, donc il faut être clair. Seulement, un, ils ont Ter Stegen qui fait vraiment des super matchs au but. Alors on peut pas dire qu'il soit toujours ultra sollicité, mais il fait bon, forcément 2 buts encaissés, donc il a pas, c'est la preuve qu'il s'est pas forcément beaucoup troué. Mais tu vois, c'est les matchs un petit peu compliqués quand tu es du gardien d'une équipe. Bah, les matchs qu'avait Bravo l'an dernier avec City, où ton équipe domine tout le temps et tu vas être une ou deux fois testé, mais ça peut être des grosses frappes en lucarne et il faut répondre présent. Valdés était excellent pour ça. Et Ter Stegen est très bon aussi. Il a 25 ans, je pense qu'il commence à entrer dans son prime, comme on dit aux États-Unis. Il arrive dans sa meilleure période et je pense que ça va vraiment être le gardien du Barça pour les 5-6 prochaines années, a priori, je pense, sans concurrence dans toutes les compétitions. Donc, bon, voire très bon gardien et excellent attaquant avec Messi. Et à partir de là, déjà, tu peux voyager assez loin parce que Messi va débloquer les matchs où tu galères. Mais la différence de but est totalement faussée par le fait que tu arrives à sanctionner les équipes quand elles se livrent et à marquer des buts sur des demi-situations, notamment grâce au talent de Messi. Mais sinon, j'ai un peu de mal à citer vraiment des joueurs. Enfin, déjà, donner une grosse patte Valverde. Alors, ça dépend moins, en plus, puisque Neymar n'est plus là, ça dépend moins du trident offensif que sous Luis Enrique. Donc, déjà, ça change. Tu as un peu plus de pressing, un petit peu plus. Enfin, c'est un peu plus équipe, alors qu'avant, ça pouvait être bon, on donne la balle devant le plus rapidement possible et puis on voit ce qui se passe. Mais alors, Busquets fait un début de saison que je trouve plutôt pas mal. Denis Suarez est en train de passer un petit cap, alors c'est pas encore le meilleur joueur du Barça, loin de là, mais il commence à avoir vraiment sa place. Quand il rentre, il fait pas tâche. Et la grosse surprise, c'est Paulinho. Et finalement, en fait, il est loin de jurer techniquement dans cette équipe-là. Et physiquement, il est vraiment au-dessus du lot. Alors, au niveau du Barça, forcément, mais presque même au niveau de la Liga, puisqu'il y a très très peu de joueurs. Lui fait 1m80, 80 kg selon sa fiche. Et tu as très peu de milieu de terrain en Espagne qui ont ce gabarit-là. Et je comprends pourquoi Paulinho a galéré en Angleterre, parce que sa qualité technique lui permettait pas de sortir du lot. Et physiquement, il était. Enfin, tu vois, quand tu tombes face à Abdoulaye Doucouré ou autre. Bah, ton physique il est forcément inférieur au mec en face. Là, physiquement, il bouffe la moitié ou les trois quarts des joueurs espagnols, enfin de Liga à ce poste-là. Et donc il arrive dans un style très box-to-box à apporter sur 2-3 séquences. Hop, il va gagner le duel aérien, il va se projeter dans la surface adverse. Il peut faire des différences comme ça. Alors, c'est vraiment pas lui qui va t'amener, je pense, loin en Ligue des Champions. Mais en Liga, où tu vois, par exemple, si je fais une comparaison, ce que fait Darder depuis qu'il a signé, qu'il est retourné à l'Espagnol Barcelone, enfin qu'il est retourné en Espagne, bah en Ligue 1, enfin finalement, il fait à peu près les mêmes matchs qu'en Ligue 1, sauf qu'il a beaucoup plus de temps et donc il peut beaucoup plus rayonner parce que il est pas chamboulé physiquement au milieu de terrain. Et on se rend compte à nouveau que Darder sait faire des super passes, sait vraiment mener le jeu, parce que en Liga, très peu de milieux de terrain vont être bougés. Ça, après, c'est la première ligne, mais quand tu es numéro 8, tu vas avoir pas mal de temps et tu vas pas avoir d'adversaire direct très costaud. Et Paulinho, justement, arrive à gagner ces duels-là au physique, et du coup, ça permet à Busquets d'avoir plus de temps pour faire la passe. Rakitic, qui rebondit après sa saison dernière un petit peu plus compliquée, continue à faire lui ses allers-retours, du coup un peu moins dans le physique et plus dans les projections et dans le fait de couvrir, de compenser, etc. Et comme tu as Iniesta qui en plus l'a fait vraiment un bon début de saison, bah on va dire, tu as deux trois magiciens avec le ballon. Tu as Iniesta, Messi qui vont faire des différences avec le ballon, et Rakitic qui va faire les efforts sur l'endurance, et Paulinho plus sur le physique. Et pour l'instant, ça suffit parce que tu es solide derrière. Donc c'est pas super beau. Moi, franchement, je me régale pas à voir le Barça, et c'est très loin de l'époque Guardiola, de l'époque Tito, de tout ce qui était le grand Barça. Mais n'empêche qu'avec l'écart qu'ils ont créé, je pense qu'ils peuvent aller au bout. En tout cas, ça va être compliqué pour le Real de reprendre les 7 points, parce que je suis pas sûr que le Barça lâche plus de 7 points sur la phase aller, par exemple. Parce que tu arriveras en étant plus fort que les autres au niveau des deux surfaces et avec un milieu de terrain physique, bah tu arriveras à te mettre en situation favorable très facilement. Et tant que Messi marquera autant de buts et aussi facilement, bah tu gagneras la plupart de tes matchs.
Raphaël, quelque chose à rajouter après ce tunnel, ce
Non,
très long tunnel?
un bilan de Christophe qui est assez complet. Le truc qui m'étonne le plus, c'est quand même que Messi puisse te ressortir encore une saison à ce niveau-là. Je pensais qu'on avait passé le cap justement de ces saisons à 50 buts, mais là, après le départ de Neymar, j'ai l'impression que c'est un peu comme quand Durant est parti de OKC, c'est
Westbrook.
Westbrook qui doit tout faire tout seul, surtout que Suarez n'est pas au niveau. Donc là, t'es peut-être parti pour la saison la plus impressionnante de Messi en termes de chiffres. Ça va être dur de battre 2012-2013, là où il avait marqué 80 buts, ou je ne sais pas si c'était une année civile ou une saison, mais c'est monstrueux ce qu'il est en train de faire à plus de 30 ans maintenant.
On enchaîne au niveau du classement avec la deuxième place, vu que le Real pour l'instant est cinquième à l'heure actuelle. C'est le FC Séville qui s'est installé à la deuxième place. Alors un Séville de Berizzo qui est assez bizarre, qui est très solide défensivement, hein, qui n'a pris que 3 buts depuis le début de la saison, même si en termes d'expected goal, c'est pas non plus exceptionnel. Par contre, offensivement, une équipe qui, Christophe, marque pas beaucoup. Mais par contre, qui généralement se crée de très grosses occasions. C'est-à-dire que dans les matchs, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Ils n'ont que 11 tirs par match, alors qu'autour d'eux, le Barça est à 15, Valence est à 13, l'Atlético est à 12, le Real est à 20. Eux, c'est que 11. Mais généralement, c'est les grosses occasions, en fait.
C'est un peu les Floyd Mayweather du football, c'est-à-dire qu'ils enfin, en fait, ils n'attaquent et ils ne touchent que quand ils sont sûrs. Enfin, ils donnent le coup de poing que quand ils sont sûrs de toucher, donc ils attaquent et ils frappent que quand ils sont vraiment en super bonne position. Ça ne veut pas dire, comme on a pu le caricaturer du Barça à l'époque, qui veulent absolument rentrer dans le but avec le ballon. Ça veut dire simplement qu'ils vont vraiment faire des passes, faire limite parfois un peu du handball, en attendant vraiment que quelque chose se déclenche et qu'ils aient vraiment une bonne opportunité. Alors, il y a un côté un peu frustrant, mais il y a un côté aussi assez esthétique. C'est-à-dire, c'est frustrant parce qu'effectivement, il y a des moments pendant 30 minutes, t'as pas d'occasion, et puisqu'ils ont la possession, l'adversaire ne peut pas faire grand-chose. Donc du coup, ça se résume à une espèce d'attaque-défense, mais où l'attaque n'attaque pas vraiment, et tu peux limite croire à une possession de conservation qui endort un petit peu l'adversaire. Mais c'est esthétique parce que techniquement c'est quand même vachement fort, et t'as très peu d'équipes dans le monde, t'en as peut-être 8 ou 10 qui savent contrôler le ballon et assurer les phases de conservation que Séville a dans le camp adverse, parce que l'adversaire quand même essaye de temps en temps de le récupérer. Mais quand tu as des milieux de terrain, je veux dire, même les milieux de terrain remplaçants, tu prends Krondeli par exemple, en numéro 6, numéro 8, c'est quand même du très très haut niveau technique. Et bon, on va pas faire toute la liste, mais des Nzonzi, Banega, Pizarro, il y a vraiment beaucoup de bons joueurs pour faire des passes propres. Alors effectivement, ça me manque un peu parfois de la dernière passe tranchante que peut faire Banega. Heureusement, il y a parce que là en plus les joueurs de différence que sont Nolito qui repique et Navas qui déborde, bah c'est pour l'instant c'est pas encore trop ça. Heureusement, il y a vraiment deux joueurs qui sont en train d'émerger là depuis quelques semaines. T'as Muriel qui commence enfin à cadrer. Je reprochais il y a quelques semaines de pas réussir à finir les occasions alors qu'il se les crée un peu toute seule, notamment au physique, à la fois avec la puissance et la vitesse. Là, il arrive à conclure, donc forcément, ça devient un attaquant très très important. Mais t'as en plus notre ami Joaquín Correa qui en ce moment dribble tout le monde. Sur tout le terrain, donc forcément ça facilite les choses pour marquer. Donc c'est pas effectivement 9 buts dans 7 matchs, c'est pas encore top top, mais il y a quand même une grosse marge de progression et surtout il y a une impression de sérénité qui se dégage de cette équipe qui fait que je pense que ça doit faire troisième ou quatrième à la fin de la saison.
Raphaël, moi j'ai envie qu'on parle un petit peu du Betis aussi, qui est en train de renaître avec un nouveau coach qui est Setién. Est-ce que tu peux nous parler de lui un petit peu et de ce qu'il a fait à Las Palmas l'année dernière avant de rentrer un
Oui,
petit peu dans ce qu'il fait à ses...
c'est un coach qui, en termes de philosophie et d'ambition, malgré des petits moyens, en tout cas c'était le cas à Las Palmas, qui peut être comparé à ce que faisait un peu Paco Gémez à Grenade il y a quelques, à Grenade, au Rayo Vallecano il y a quelques saisons d'ailleurs, qui est parti à Grenade ensuite et ça n'a pas du tout marché, il s'est fait virer, on n'a plus trop de nouvelles de lui depuis. Il me semble qu'il est parti en Amérique du Sud
Mexique.
ou en Amérique
Mexique, je
latine,
crois.
au Mexique, donc en Amérique latine, pour ne pas énerver les gens. Donc Quique Setién, quelqu'un qui est quand même très porté sur le fait d'avoir le ballon, quels que soient les joueurs qu'il a et les moyens qu'il a. C'est quelqu'un qui a déclaré un jour, avant je pensais qu'il fallait s'adapter aux joueurs qu'on a, mais c'est parce que je comprenais rien au foot. Donc c'est pas du tout la déclaration habituelle chez les entraîneurs. Et ça se voit d'ailleurs dans la manière qu'a de jouer le Betis Séville depuis le début de la saison, parce que c'est une équipe qui a tendance à avoir la possession quand elle peut l'avoir, à répéter des phases de progression, de conservation, de préparation très longues,
Ouais.
qui fait la différence grâce à ça, notamment qui a réussi à battre le Real Madrid comme ça.
Sur une séquence en Christophe, est-ce que Christophe peut nous dire ce qu'il a ressenti devant cette séquence où il y a une quarantaine de passes, je crois, en fin de match, jusqu'au but de Sanabria,
Ouais, c'est
vécu en
assez magnifique
direct?
parce que
Ouais.
en fait c'est tout ce que ne font pas les équipes
Les
qui affrontent
gros,
un
ouais.
gros et qui sont dans la dernière minute et qui veulent absolument tenir. Bon, après, souvent, c'est parce qu'elles ne le peuvent pas, mais ça, généralement, ça dégage loin le ballon. Et là, le Betis fait une possession de conservation, mais sans risque en plus, parce
Non,
qu'au
ouais.
début, ça attend un petit peu que l'adversaire se livre pour faire la passe. Mais après, ça fait simplement circuler et ça temporise et ça gère le chrono. Et finalement, il y a une ouverture qui se fait, il y a le décalage, centre, tête et but. Et c'est l'un des buts les mieux construits de toute la saison, peu importe le championnat. Et c'est fait à la 93e minute face au Real, alors que tu es sous pression et que tu vois quasiment pas le ballon depuis 1 heure.
Ouais, et puis depuis, ils ont d'ailleurs refait quelques buts similaires. Alors là, ils sont d'ailleurs sur 3 victoires de suite contre la Corogne, le Real Madrid et Levante. Puis un match nul contre la Real Sociedad récemment. Voilà, c'est une équipe qui est capable de, grâce à ce style de jeu ambitieux et qui essaye d'avoir le ballon quelles que soient les circonstances et de préparer, bah, finalement, peut faire des résultats aussi bien contre les petits qui vont défendre bas que contre les gros qui vont venir le presser et ouvrir des espaces plus haut sur le terrain. Voilà. Et puis, il faut le dire parce que justement, ça nuance un peu la déclaration de Quique Setién qui dit, voilà, il faut pas besoin de s'adapter à ses joueurs, il faut jouer comme on le pense. Il y a quand même des joueurs pour jouer au football. Donc,
Oui.
un joueur comme Andrés Guardado qui a un milieu de terrain complètement sous-coté et je pense exceptionnel et qui est passé à côté d'une carrière encore plus illustre, mais qui a quand même une belle carrière derrière lui. Sergio Leone, Sanabria, Barragán qui joue à
Justement.
Valence avant. Voilà, il a de quoi, encore plus qu'à Las Palmas, et pourtant à Las Palmas il avait aussi des vrais joueurs de foot, mais de quoi avoir plus de résultats avec le même style de jeu.
Justement, moi j'ai juste envie de parler vite fait d'Antonio Sanabria qui marque, c'est lui qui marque le but au Bernabéu qui finit
Il est
l'action,
déjà à 4 buts cette saison déjà.
qui est à 4 buts en 6 matchs cette saison, 3,03 aux expected goals, donc il fait un petit peu mieux. Mais en fait, j'ai envie d'en parler parce qu'il y a un an et demi maintenant, j'avais fait un papier sur les buteurs. Alors j'étais allé sur WhoScored et j'avais compilé un petit peu les taux de conversion de chacun, etc. Et en fait, au top 10, dans les 5 grands championnats, donc là on est en février 2016, voilà, il y a un an et demi, qui ressortait en tête en termes de taux de conversion? C'était Sanabria, qui était à 37% de taux de conversion, qui était à 2,7 tirs pour un but marqué. Et un ratio assez intéressant, sachant qu'il jouait au Sporting Gijón, ce qui était loin d'être une grosse équipe. Et quand on allait un peu plus loin et quand on allait voir dans la surface de réparation, il était quasiment à 50% de réussite au niveau du taux de conversion. Alors, ce qui fait qu'avec un entraîneur comme Setién, qui est là où l'équipe construit vraiment longuement ses actions pour se retrouver dans les meilleures positions possibles à la fin. Avoir récupéré un joueur comme Sanabria, ça colle en fait au projet. Et les stats qu'il montrait déjà en 2016, normalement, ça devrait lui permettre d'en faire pas mal cette année avec le Bétis.
Il est à 4 buts marqués sur 12 tirs, donc 33%,
C'est
c'est
pas
très
mal
proche
aussi.
de ce qu'il faisait à l'époque. Mais c'est aussi parce que le Bétis, il arrive justement à se trouver des positions de tir d'une bonne équipe de Liga et pas forcément d'une petite équipe d'un championnat qui complique ses situations. Donc c'est une équipe à suivre, peut-être quelle que soit d'ailleurs l'équipe qu'elle affronte. Et c'est rare avec les petites équipes parce que parfois il y a des petites équipes qui sont intéressantes et puis quand ça joue contre un gros, ça oublie un peu ses principes. En l'occurrence, eux, c'est l'inverse complet. Là, il y a un match dans 10 jours à la fin de la trêve internationale contre le Valence de Marcelino. Je pense que ça peut être un très très bon match entre une équipe qui joue souvent en 4-3-3, qui cherche à avoir le ballon et qui veut construire sur des phases très préparées, et un Valence en 4-4-2 qui est très vertical et qui est similaire d'ailleurs à ce que faisait Marcelino à Villarreal.
Et ça sera des retrouvailles pour Joaquin, ce nom qui a joué pendant pas mal d'années à Valence, qui a déjà marqué 3 buts alors qu'il a 36 ans.
Joaquin,
Salut.
qui a un déni de calvitie digne du mien d'ailleurs. Une coupe de cheveux où on voit très bien qu'il n'y a plus rien, mais il met le maximum de gel pour cacher tout. C'est impressionnant. Gloire à toi, Joaquin.
Allez. Donc, dans ces cas-là, on dit imite Antonio Conte.
Voilà.
Christophe, on enchaîne. Là, j'ai parlé de Sanabria. Toi, tu voulais parler de Bardi, joueur de Levante.
Absolument. Joueur qui ne va sans doute pas parler à grand monde, et c'est un tort, car le dénommé Enis Bardi, qui est macédonien, est en fait un très très bon joueur. Il a 3 buts en 6 matchs cette saison. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel, mais il y en a deux qui sont des coups francs, l'un de 28 mètres et l'autre de 22 mètres. Le second où je t'avais annoncé, Florent, au
Oui,
moment
c'est
du fait
vrai.
qu'il marquerait sur coup franc.
J'allais le dire. Il a un but annoncé. C'était face à la Real, hein, je crois. Sur.
C'est l'une de mes fiertés de ma saison. Alors, t'es le seul témoin de ça,
Je
mais enfin,
confirme. Je confirme.
ça a vraiment eu lieu. Mais alors, pourquoi j'en parle? Je l'ai vu sur 2-3 matchs, donc je ne vais pas te faire un profil détaillé. Enfin, je l'avais vu aussi en sélection U21 avec la Macédoine, où il était vraiment intéressant, même si la Macédoine avait perdu ses matchs. Il y avait vraiment de bonnes séquences au milieu de terrain, et ça pêchait juste parce que dans les deux surfaces, tu étais face à des équipes qui étaient beaucoup plus fortes, notamment quand ils avaient joué l'Espagne, où il y avait Asensio, Ñíguez, forcément, tu pouvais pas rivaliser. Mais pour moi, c'est le meilleur recrutement de ce début de saison si tu compares entre on va dire, le club de provenance, là où il va, le prix et ce qu'il arrive à faire. C'est un joueur qui vient de Újpest, en Hongrie. Qui donc était vraiment pas mal à l'Euro U21, qui est, on va dire, une espèce de meneur de jeu, mais complet, c'est-à-dire qu'il peut, je le vois assez souvent, partir côté gauche pour mener le jeu depuis son pied droit, donc espèce de meneur de jeu un petit peu délocalisé, comme faisait parfois Valbuena ou Iniesta à l'époque, qui peut aussi être numéro 10, qui a une très bonne qualité de frappe, qui sent bien le jeu, qui peut redescendre pour être numéro 8, et c'est l'une des attractions, on va dire, si on peut parler comme ça, de Levante. Levante qui fait plutôt un bon début de saison, alors que c'était souvent traditionnellement l'une des équipes bouchères de Liga qui était très moche à voir jouer. Et je pense que, alors déjà, je suis content d'avoir un Macédonien qui joue en première division au bon niveau, parce que c'est toujours bien d'avoir des joueurs de nations un petit peu oubliés, enfin un petit peu méconnus qui percent au haut niveau. Ça permet un petit peu d'élargir l'horizon footballistique. Et puis je pense typiquement que c'est un joueur, s'il poursuit sur cette lancée-là, sur toute la saison, qui l'année prochaine peut très bien se retrouver au milieu de terrain, soit à l'Atlético, soit à Séville. Bon, la marche est un petit peu haute, mais ça serait pas déconnant de l'imaginer à terme à Barcelone. Alors je m'enflamme un petit peu, mais quand tu arrives à vraiment sortir du lot, balle au pied, et que tu peux à la fois être meneur de jeu et à la fois conclure les occasions quand tu es à Levante, c'est vraiment très prometteur. En plus, il est jeune, je crois qu'il a 22 ans.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, je n'ai pas tellement des coups de cœur sur des joueurs que je vois assez peu. Vous, c'est Romain Thomas, bah moi, c'est Bardi que j'ai découvert, que je connaissais quasiment pas. Et en l'avoir vu là en Liga, ça m'a rappelé qu'effectivement, c'était lui l'un des deux joueurs de la Macédoine qui sortait du lot au milieu de terrain cet été quand on avait suivi l'Euro Espoir. Donc voilà, belle surprise à surveiller si jamais vous tombez sur les matchs de Levante.
Raphaël, est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu veux regarder les Vantés du coup?
Oui, parce que de toute façon, Christophe Hufli a très souvent raison en termes de football. Il avait notamment annoncé que N'Golo Kanté ferait une petite carrière. Donc voilà,
Tu me diras combien il t'a
il faut
payé
suivre
pour que
cette
tu dises
personne.
ça. On va enchaîner, on va partir en Italie. Ben Raphaël, on reste avec toi pour parler de Naples parce qu'on a quand même pas
Ah,
mal
oui.
de. Ouais, on a quelques questions sur Naples. En gros, c'est tout simplement une question d'Elio Gusti sur Twitter.
Ah, Elio Gusti, ce bon Elio.
Tout simplement, Naples va-t-il tenir sur la longueur de la saison? Donc
Écoute,
voilà, je te lance et puis je donnerai quelques chiffres après.
je pense que tu auras les chiffres pour me soutenir, mais si on croit les chiffres, ils sont largement au-dessus du dos dans le championnat. Ils ont un effectif en dehors du poste d'attaquant de pointe, puisque maintenant Milik s'est refait les croisés. Ils ont un effectif qui est assez dense pour tenir sur toute une saison, tout en jouant les trois compétitions qui concernent les clubs italiens. Ils ont un style de jeu qui maintenant a été prouvé depuis plusieurs saisons et un effectif qui ne change pas beaucoup. Le 11 titulaire est à peu près le même depuis un an et demi désormais. Si c'est pas cette année, c'est jamais. Et tu le sens dans les déclarations, il y a Insigne qui a dit ouais, tout le monde dit qu'on joue super bien, mais on gagne rien, ça commence à nous faire chier. Il a dit ça. Et Hamsik qui a dit ouais, c'est bien de bien jouer, on est d'accord, mais à un moment il va falloir qu'on se mette à gagner. Parce qu'Hamsik, ça fait des années qu'il est là. À chaque fois Naples, c'est une équipe frisson et puis il gagne rien. Donc là, je pense que c'est l'année. Et puis je pense que si Sarri fait encore une belle saison, qu'il soit champion ou pas, va y avoir des clubs qui vont commencer à s'intéresser à lui et à mettre un vrai gros billet pour ce coach qui a donné une des identités les plus marquées à son club en Europe. Je pense que en dehors du Napoli, si tu sors des clubs qui ont déjà une culture comme le Barça ou comme l'Ajax, il y a très peu de clubs qui ont un style de jeu défini, aussi prononcé et aussi efficace. Et donc je pense que voilà, c'est l'année où il faut conclure. Et là, le Napoli est toujours aussi beau à avoir joué. Ils marquent encore plus de buts que d'habitude. Ils ont une défense qui maintenant ne se connaît par cœur. Ça me déprimerait que ce club ne gagne pas parce que les gens s'en souviendront dans 10-15 ans, diront ah, le Napoli de Sarri, tu te rappelles. Mais le fait d'inscrire une ligne à ton palmarès, dans les bouquins d'histoire, c'est toujours ça qui te permet de rester dans la mémoire des gens encore plus longtemps et qu'on écrive des bouquins sur toi, etc. Donc j'espère que le Napoli va gagner.
Puis un titre au San Paolo, ça doit être quelque
Ah,
chose à
ça
fêter.
serait fou.
Justement, on va donner quelques chiffres en effet sur Naples. Alors, on le sait, meilleure attaque pour l'instant de Serie A, 25 buts marqués. La deuxième meilleure attaque, c'est la Juve, elle en a mis 20. En défense, c'est pas la meilleure défense, vu qu'ils ont pris 5 buts. C'est l'Inter qui est la meilleure avec 3. Mais bon, ils sont pas si mal. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on s'arrête sur les XG, les expected goals. En termes de XG en attaque, donc en termes de production offensive, entre guillemets, ils sont à 18,7 pour l'instant. Donc c'est une équipe qui performe, qui fait mieux. Mais c'est souvent le cas, on l'a déjà dit, pour les équipes qui ont pas mal de talent devant, etc. Donc c'est pas forcément une surprise de les retrouver là. Mais surtout l'écart en fait en termes de production offensive par rapport aux autres. Donc j'ai dit que Naples était à 18,7, approche les 19 donc. Et derrière, la deuxième équipe, c'est la Lazio qui est à 14,5. Et ensuite, tu as la Juve qui est à 12,5, l'Inter à 11,8, un petit peu comme la Roma. Et ensuite, le Milan AC est à 10,6. Donc déjà là, il y a quand même un gros gap entre
Ouais,
Naples et
alors
le reste.
ils sont en effet énormes et d'ailleurs ils sont à 7 victoires en 7 matchs. Le petit truc à relativiser, c'est qu'ils ont en dehors de la Lazio, ils ont joué
Voilà, c'est ça.
beaucoup de petites équipes. Alors il y a l'Atalanta aussi de Gasperini qui est une bonne équipe, mais sinon ils ont joué Vérone, Bologne, Benevento qui est catastrophique, La Spal et Cagliari.
Oui.
Donc tu
Ils
sais, voilà.
ont fait le
Après,
boulot face aux équipes.
voilà, les. les gros qu'ils ont joué entre guillemets, c'est l'Atalanta et Lazio. Ils ont mis 3-1 et 4-1. Donc pour l'instant,
Oui.
tout va bien. Là, ils ont la Roma en déplacement et l'Inter à domicile. Donc c'est ces deux prochains matchs qui vont permettre de voir si en effet c'est une équipe qui est désormais au-dessus de ses concurrents directs.
Voilà, et pour poursuivre, en termes de défense, en termes d'expected goals, ils sont devant aussi, devant tout le monde, ils sont à 3,25 quand la Juve est à 8, l'Inter est à 6, la Roma à 7, donc là aussi, a priori, virtuellement, entre, voilà, ils font mieux. Et du coup, la différence en termes, la différence expected goals pour versus expected goals contre, ils sont à 15,5 en leur faveur quand tous les autres sont aux alentours entre 4 et 7, on va dire, entre plus 4 et plus 7. Donc
C'est
voilà, il y a
plutôt
un
pas
vrai
mal.
gap, mais en effet qu'il faut confirmer dans les matchs qui seront beaucoup plus serrés, sachant que bah, par exemple leur premier gros match en Ligue des Champions, ils sont passés à côté, ils sont inclinés face au Shakhtar. Christophe, sur cette équipe de Naples, quelque chose à rajouter?
Ce qui m'impressionne le plus avec Naples, c'est les sorties de balles. Alors bien sûr, il y a le pressing, c'est un pressing de malade mental, ou pour le coup, qui en plus est vraiment très intelligent, parce que ok, ça court vraiment beaucoup, et même, genre là, contre Cagliari, ils menaient 3-0, ils auraient pu mener 15-0, parce qu'en face, il n'y avait rien du tout, ils se faisaient des passes à 10 dans la surface adverse, tellement c'était facile. Mais n'empêche, ils continuent à presser, alors que tu te dis, bon, les gars, calmez-vous, certains vont aller en sélection, ensuite t'enchaînes Rome, City, l'Inter, peut-être pas se cramer. Mais bon, si, ça montre aussi une espèce de dévouement au projet et le fait que personne ne triche parce que tout le monde continue à faire les efforts et des efforts bien, bien coordonnés, ça sort toujours sur le bon porteur, etc. Vraiment le pressing au-delà de son intensité est nickel dans son application. T'as jamais quelqu'un qui va courir tout seul et déséquilibrer le bloc en abandonnant sa position et en laissant les autres à un de moins. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est les sorties de balles. Je sais que toi aussi t'étais impressionné, on avait regardé ensemble. Enfin, en même temps, chacun dans notre ville, la deuxième mi-temps du match contre la Lazio, où ils sont menés, ils marquent 3 buts en 5-6 minutes, et il y a des sorties de balles où c'est incroyable, c'est-à-dire qu'ils font, là pareil, ils font une espèce de taureau quasiment devant leur but, et d'un coup, l'adversaire finit par laisser des espaces à force de courir après le ballon, le bloc se déstructure un petit peu,
Et ils
et
vont
là, tu as
trouver
une
toujours le
passe
plus loin
verticale
souvent,
de
ouais.
40 mètres. Ça va faire une petite remise pour le troisième homme et de nouveau une passe en profondeur de 40 mètres et là t'arrives face au but adverse quoi. Et ça c'est vraiment très fort alors que défensivement leur quatuor je le trouve assez moyen notamment la charnière centrale où je suis pas persuadé que
Koulibaly,
Albiol
c'est quand
soit
même un
vraiment
sacré joueur.
alors Koulibaly oui surtout physiquement et il commence à vraiment être
Il a
pas mal balle au pied.
un super pied gauche.
Albiol j'ai deux trois réserves. C'est pas mal, hein, mais quand tu compares
Non, mais
la
c'est vrai
grande
que
Juve, etc.
jusqu'à ce qu'il arrive à Naples, ça a jamais été un grand défenseur central.
Voilà, je pense qu'ils se font un peu dans la masse parce qu'il est dans un collectif très fort. Mais ouais, les sorties de balles de Naples, c'est vraiment quelque chose que je vois pas les autres équipes être capables de faire à ce point-là. Des passes au sol de 45 mètres avec remise, puis de nouveau ouverture. Et tu arrives sur un 3 contre 1 ou 3 contre 2 offensif parce que toute l'équipe adverse s'est livrée au pressing et que tu as réussi à t'en sortir très calmement sans balancer.
Bah Christophe, on reste avec toi pour enchaîner, puisque donc on en a parlé un petit peu des poursuivants de Naples pour l'instant, la Juve, l'Inter, la Lazio, la Roma, et tu trouves que ces équipes ont notamment un point commun, c'est que bah, elles ont toutes un attaquant qui tourne fort en ce début de saison, quoi.
Voilà, ce qui ne veut pas nier la qualité collective de ces équipes-là. Je pense surtout à la Juve, un petit peu à la Lazio, qui, je trouve, dépendent un petit peu moins de leur buteur. Même si voilà, les autres ont leur qualité, je mettrai ensuite la Roma et l'Inter en dernier s'il fallait parler de la force collective. Mais une simple lecture du classement des buteurs suffit. Il y a Dybala de la Juve qui a 10 buts. Avec des taux de conversion et même une qualité de but, parce qu'au-delà du fait de beaucoup marquer, il marque des buts qui sont loin d'être faciles. Donc Dybala de la Juve qui est à 10 buts, ensuite Chiro Immobile de la Lazio qui lui marque des buts légèrement plus faciles qui est à 9, Dzeko de la Roma et Mertens du Napoli à 7, Icardi de l'Inter à 6, et ensuite tu as Calderón du Napoli à 4. Donc c'est-à-dire que tu n'as aucun joueur d'un club des deux autres tiers du classement qui met un buteur dans les premiers. Chaque club qui joue le titre, ou qui pour l'instant est dans la course sans peut-être forcément jouer le titre, a son grand buteur. Et pour moi, toutes, avec peut-être un petit peu moins la Juve qui a la solution Higuain en renfort, mais sinon pour moi, toutes dépendent quand même en bonne partie de leur buteur, parce que la Lazio, si Immobile baisse un peu le pied, bon, il y a Parolo qui marque quelques buts, mais je vois pas de. Surtout maintenant que Baldekeita est parti, je vois pas quelqu'un qui serait capable d'assumer cette fonction. Pour moi, l'Inter est quasiment tenu à bout de bras depuis l'année dernière par Icardi, qui est vraiment un joueur extraordinaire dans une équipe qui, pareil, l'année dernière avait aussi très bien commencé, mais où là aussi c'était un petit peu ric-rac et ça a fini par se casser la figure. Parce que tu peux pas tout faire avec seulement, entre guillemets, Handanovic dans les buts et Icardi en pointe. L'AS Rome a Dzeko qui c'est un petit peu la théorie Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire qu'il frappe tout le temps. Et forcément, à tout le temps frapper, bah, tu marques des buts. Ce qui n'est pas forcément stupide. Hein. Mieux vaut frapper 8 fois et marquer un but que de frapper 4 fois et en marquer 0. Mais tout ça pour dire que ouais, tu as un point commun. Alors le 6e, c'est le Torino. Mais le Torino, Belotti a été pas mal blessé. Donc il dépend un petit peu moins. Enfin, je crois qu'il était blessé. En tout cas, il a marqué 3 buts. Et
Oui,
il
il s'est
dépend un
blessé il n'y a pas
petit peu
longtemps,
moins.
ouais, je crois.
Il dépend un petit peu moins de lui. Bon, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions offensives. Je pense que chez eux, c'est plus le trident si tu prends avec Yalic et Falke, avec en plus Mbagnon qui peut un petit peu jouer. Donc eux, ils dépendent un petit peu moins de leur buteur, même s'il est très bon. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment le point commun, contrairement à Naples, qui, même s'il y a Mertens qui marque beaucoup. Naples dépend moins des buts de Mertens parce que tout le monde arrive à se procurer beaucoup d'occasions, notamment Insigné. Les autres, ça finit toujours par être dépendant de ton numéro 9, surtout quand tu joues en 4-3-3. Et donc, si Dzeko se blesse, si Icardi se blesse, même si Dybala se blesse, ça peut vite se casser la figure. Alors, rien ne dit qu'ils vont se blesser et parfois être dépendant de quelqu'un, c'est pas grave si le joueur est bon pendant toute la saison. N'empêche que je pense que c'est un avantage qu'à Naples, même si je suis pas encore persuadé que Naples aille au bout. J'ai peur que, enfin peur entre guillemets, que sur la durée, la Juve et son plus grand effectif, sa plus grande richesse, finissent par passer devant. Je pense que Naples a au moins cet avantage-là, qui est de pouvoir se créer des occasions par tout le monde et beaucoup moins dépendre de un grand buteur. Et pour finir, c'est vrai que ça remet un petit peu l'Italie devant de la scène offensive incarnée par les buteurs. On sait que l'Italie, c'est le championnat où il y avait le plus de buts l'an dernier. Et ça confirme que. Alors, je ne sais pas si c'est là où il y a les meilleurs attaquants du monde, mais en tout cas, tu as quand même 5-6 très très bons attaquants en Serie A.
Raphaël, juste un petit chiffre sur Dybala. Christophe a donné le nombre de buts. Ce qui est assez fou sur Dybala, c'est les expected goals à côté. Donc il a marqué 10 buts, mais aux expected goals, il est à peine à 4,8. Donc c'est du simple au double quasiment. Et c'est vrai que de toute façon, les buts qu'il a marqués, c'était pas mal de l'extérieur de la
Bah,
surface, notamment en début de saison. Et il est vraiment, il a le pied très 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 chaud en ce moment.
c'est aujourd'hui un des meilleurs frappeurs du monde. Hein. Je pense que quand tu vois la qualité de son pied gauche, c'est une frappe fouettée. Il est capable aussi de te mettre une feuille morte sur le coup franc. Il est capable de te mettre un piqué. Il est capable de placer le ballon. Il peut frapper en force. C'est un joueur totalement complet sur la manière de finir. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est. On a parlé du nombre de buts en Serie A. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a aussi de plus en plus de styles différents en Serie A. Quand tu vois Naples, c'est un jeu de possession complètement expansif et qui régale. La Juve, c'est une équipe capable de s'adapter, mais qui compte aujourd'hui beaucoup sur Dybala. L'Inter, comme a dit Christophe, c'est encore un chantier. Et c'est vrai qu'en termes de stats, c'est solide, mais il y a toujours cette dépendance à Icardi. Et puis après, tu as une équipe comme la Lazio qui joue avec une défense à 3, avec un style de jeu où ils sont à la fois capables de ressortir le ballon proprement et de se projeter très rapidement vers l'avant avec Immobile et latéraux et Luis Alberto qui fait une saison assez impressionnante pour le moment. T'as la Roma qui est un peu le jeu de la Di Francesco, donc c'est un peu plus de préparation et un peu plus de jeu sur les côtés. J'ai pas encore eu le temps de regarder cette saison maintenant énormément de matchs et beaucoup moins que les saisons passées. Mais si je devais choisir un championnat cette saison à regarder, ce serait sans doute la Serie A parce qu'il y a énormément d'équipes compétentes et de styles différents. Et cette course au titre particulièrement passionnante, et je suis curieux de voir comment ça va évoluer et surtout comment cette nouvelle génération de techniciens. Alors, tu peux citer Inzaghi à la Lazio, tu peux citer à Naples Sarri qui est qui est pas jeune, mais qui fait un peu partie des gens qui sont arrivés récemment dans le football professionnel italien. À la Roma, t'as Di Francesco. Moi, je suis à la Milan, t'as Montella, qui est un peu plus longtemps dans le circuit, mais qui reste un entraîneur jeune. Moi, je suis curieux de voir comment tout ça va se mélanger et voir ce que ça va redonner à la Serie A. Il leur manque, à mon avis, juste des moyens financiers et de marketing pour montrer que c'est un championnat qui est aussi fort que l'Espagne ou la Première Ligue aujourd'hui.
On enchaîne et on va justement en Allemagne pour finir notre tour d'Europe avec une question, vu qu'en Allemagne on est un petit peu sur un scénario à l'italienne avec Naples qui est parti devant. Là, c'est Dortmund qui a fait un gros départ.
Et Ancelotti qui est parti tout court.
Et Ancelotti qui est parti tout court, on en a parlé la semaine dernière. Ben justement, Raphaël, on reste avec toi. Une question de Jean Tronche sur
Ah,
Twitter.
voilà un beau pseudo.
Voilà. À propos de Dortmund, question simple, c'est est-ce que Peter Boss peut mener Dortmund à un nouveau titre?
Écoute, vu comment c'est parti, je suppose que oui, parce que Peter Boss est un entraîneur qui, à mon avis, est bien plus compétent en championnat qu'en Coupe d'Europe. Alors malgré ça, il a fait une finale de Ligue Europa, mais bon, on connaît le parcours rocambolesque de l'Ajax, qui aurait très bien pu sortir contre l'OL rocambolesque de Genesio. Voilà, je pense que le match contre le Real a montré que c'était une équipe qui était très loin d'avoir un plan de jeu prêt à répondre à une telle problématique. Par contre, en championnat, ils se créent tellement d'occasions, ils ont tellement de talent, c'est une équipe qui est tellement rodée et qui s'appuie encore sur des bases du jeu de position travaillé par Tuchel, avec un jeu beaucoup plus prononcé sur les ailes. Alors chez Tuchel, il y avait souvent un seul joueur par couloir. Aujourd'hui, avec Boss, il y a souvent un ailier plus un latéral et beaucoup de dédoublement. Je pense que c'est typiquement le style de jeu qui peut convenir à la Bundesliga. Ils ont aussi une capacité à mieux prévoir les contres que Tuchel pour l'instant, en tout cas en championnat. Donc oui, ça peut aller au bout, surtout que le Bayern a l'air dans un imbroglio un peu général, un manque d'ambition peut-être de la part des dirigeants que les joueurs ont ressenti, un coach qui avait pas l'air de convaincre tout le monde, et cette place laissée vacante aujourd'hui. Ce serait marrant d'ailleurs que le Bayern en reprenne Tuchel pour essayer de rattraper Dortmund. Ce serait un petit truc marrant pour l'histoire, surtout vu comment Tuchel est parti en mauvais termes de Dortmund.
Christophe, sur Dortmund, tu les as vus un petit peu en championnat. Ils ont notamment fait exploser Gladbach dans un match où ils les ont fait exploser, quoi. Tout simplement, il y avait une belle démonstration, je crois, ce 6-1, il y a 10 jours, si je me souviens bien.
Ouais, c'est ça.
Ouais,
Ouais.
c'est
Et
ça.
moi, ce que j'aime bien du côté de Dortmund, c'est le recrutement. Je trouve que contrairement à l'an dernier, où ils s'étaient un petit peu enfermés dans un trip, on prend uniquement les jeunes les plus talentueux d'Europe, ou en tout cas ceux qu'on a identifiés comme tels, ce qui a amené à prendre Emre Mor sans le faire jouer parce qu'il y avait déjà 8 ou 9 joueurs offensifs et à devoir le revendre cet été, même pas le prêter, carrément le revendre du côté du Celta. Bah là, ils ont cherché des joueurs beaucoup plus expérimentés, des Maximilian Philipp, des Daoud. Tu vois, Daoud, il a que 21 ans, il est encore jeune, mais il a 2 saisons et demie de Bundesliga derrière lui. Il y a Yarmolenko qui avait fait X saisons du côté de l'Ukraine, qui n'avait pas prouvé sur un championnat majeur ce qu'il pouvait faire, mais dont on savait déjà qu'il avait du talent parce qu'il avait montré à la fois en Coupe d'Europe et puis en sélection, et qui montre, à mon grand étonnement, que c'est pas simplement un ailier qui peut repiquer sur son bon pied, frapper, être un petit peu un Swarjan Robben, un Nolito, que non, il sait faire d'autres choses, il sait être créatif, faire des talonnades, il sait faire jouer son équipe, ce qui est une vraie bonne surprise. Alors, c'est pas encore le joueur du siècle, mais dans le projet Dortmund, c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment pas mal. Interrogation pour moi sur comment ça va se passer quand les blessés vont revenir. Qu'est-ce que tu fais de Schürrle, qui est l'un des joueurs les plus chers de l'histoire sur le prix cumulé de tous ses transferts dans sa carrière? Qu'est-ce que tu fais de Reus s'il se remet à revenir un jour et à rejouer au football? Bon, c'est des vraies questions. Il y a Rodé aussi qui est dans l'effectif, qui n'a pas encore joué une minute en championnat. Mais il y a vraiment beaucoup de choses pour cette équipe. Et le pressing qui peut parfois être un petit peu freestyle, hein, de Peter Bosch, où ça va presser sur tout le terrain, quitte à déstructurer un petit peu l'équipe et à du coup laisser des trous en défense parce que tu vas vouloir à tout prix récupérer le ballon, quitte à un peu faire n'importe quoi. Est-ce que les joueurs quittent leur place et abandonnent la structure initiale? Bah, pour l'instant, ça fonctionne bien en Bundesliga parce que tu arrives toujours finalement à récupérer les ballons. Donc si tu étais face à un Real, enfin on l'a vu face au Real, mais si tu es aussi face au Napoli par exemple, des équipes qui savent qui savent absorber le pressing et quand toi tu commences à un peu faire n'importe quoi, un peu de fatigue au pressing, qui viennent te sanctionner, là ça serait problématique, mais pour l'instant il n'y a personne en Bundesliga qui a trouvé la réponse à ce pressing intense. Et comme en plus tu as aussi l'un des meilleurs effectifs de Bundesliga, bah ça fait que tu gagnes tous tes matchs presque. Enfin pour l'instant tu les gagnes tous.
Raphaël, pour terminer sur la Bundesliga, tu voulais peut-être nous dire deux mots d'Offenheim, qui pour
Oui,
l'instant est
oui, oui.
troisième et qui tourne quoi avec
Oui.
Nagelsmann.
Alors, avec la grosse interrogation, Nagelsmann va-t-il rester, puisqu'il fait partie des deux cibles prioritaires du Bayern Munich, à en croire la presse allemande qui dit que donc c'est lui ou Tuchel. Alors, il y a aussi eu la rumeur Luis Enrique, mais voilà, les dernières sources, fiables ou pas, ça devrait être un Allemand, donc logiquement pas Luis Enrique. Mais Offenheim qui m'avait impressionné contre Liverpool et que depuis je suis un peu. Notamment parce que c'est une équipe qui, un peu comme la Lazio, je trouve, a cette capacité à la fois ressortir proprement et à se projeter rapidement une fois que le premier rideau est battu. Une défense à trois également. Et je trouve que ces équipes-là qui sont capables à la fois de préparer longuement si elles sont pressées dans leur camp et dès que c'est battu, d'exploser, de se projeter. Parce que finalement, quand tu bats le premier rideau après une sortie de balle propre, c'est un peu comme si tu avais une transition, et notamment en Bundesliga, parce que tu as beaucoup d'espace dans le dos et à ce moment-là, toute l'équipe adverse doit être obligée de défendre en reculant. Donc je suis curieux de voir comment ça va se passer cette saison pour Hoffenheim. Est-ce que Nagelsmann va rester et s'il s'en va, justement, quel impact ça aura sur l'équipe pour savoir. C'est une des questions, je trouve, les plus fascinantes dans le foot, c'est de savoir quel impact a vraiment un coach sur son équipe et qu'est-ce qui reste après son départ. C'est un truc où on n'a toujours pas de mesure objective pour savoir quelle part avait un entraîneur dans la réussite d'un club. Là, je suis curieux de voir ce qui va se passer pour Hoffenheim cette saison et par la suite si Nagelsmann s'en va, parce que je pense que s'il s'en va pas pendant la saison, ce sera cet été.
Bon ben voilà, on va s'arrêter là pour ce tour d'Europe et ce 9e épisode de Vue du banc. Merci Raphaël.
Merci à toi, Florent.
Merci Christophe.
Merci.
Et puis ben on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un 10e épisode qui sera sans doute consacré à l'équipe de France après ses matchs face à la Bulgarie et au Bélarus et en espérant parler de leur qualification pour le mondial, n'est-ce pas?
Oui, on sait, oui. À
Oui.
court terme, oui. Oui.
Voilà, à court terme. Parlons court terme pour l'instant.
Voilà.
Allez, à la prochaine. Ciao.
Ciao.
Cordialement.